Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Je suis en compagnie de la nouvelle génération du stand-up, le futur de l'humour en France, Lou Trontignant et Tani.
Wow. Quel accueil, merci.
Ouais. Quelle énergie dans la présentation.
Un animateur, un animateur. Déjà, alors, question, comment ça va les amis?
Ça va très bien, je suis très content d'être là.
Ouais.
Voilà.
Ouais, je suis content aussi, ouais.
non, ouais, je suis trop content. Fatigué.
On peut le dire, c'est le matin.
Pourquoi ouais. Fatigué
ouais. Bah, tout s'accélère hyper vite.
Ouais.
Du coup, c'est trop bien. Mais ouais, c'est fatigant. C'est difficile de dormir quand on a des idées.
Wow. C'est un t-shirt.
C'est un t-shirt.
Ton roman. Direct.
Difficile de dormir quand on a des idées.
J'avoue, c'est hyper dur.
Je pense que ça doit être encore plus difficile de dormir quand t'es genre le collaborateur de Elon Musk qui, lui, a des idées qui finissent réveillées à 3h du matin. T'écoutes pas, j'ai une idée.
Faut que les voitures volent.
Mais je suis mon propre Elon Musk, je pense. Je m'appelle à 3h du matin dans ma tête. Réveille-toi, t'as une idée.
Quand tu dis, quand tu dis tout s'accélère, c'est-à-dire
Mais je veux pas me la péter.
Mais
si. Oh là là, il est cancer. Faut.
Alors c'est quoi cancer? C'est quoi cancer?
C'est un signe astrologique.
C'est très important chez nous.
Donc il se justifie. Ouais. Voilà. Culpabiliser.
C'est des victimes un peu.
Ah d'accord.
Les cancers. Toi t'es quel signe?
À ton avis?
Ah oui c'est vrai, on en avait parlé. Toi t'aimes pas du tout.
T'aimes pas du tout.
Non.
T'aimes pas l'astrologie du tout.
Non.
Non, mais donc
j'ai pas dit que j'aime pas l'astrologie. J'ai pas dit j'aime pas l'astrologie.
Ça fait pas sens.
Je suis pas sûr. Enfin, si je peux vraiment dire ce que je pense, le fond de
non,
je suis pas sûr.
Non, okay. On veut que tu dises pas ce que tu penses.
Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Il est libre d'aimer et d'agir selon ses bons vouloirs. C'est vraiment le truc le plus flat possible. Non, mais je suis pas sûr qu'un rapport sexuel à 9 mois près de tes parents définisse ton caractère un vendredi en mois de février. Tu vois, je me dis pas ça. Tu vois, je me dis pas genre bah oui, mais il a hésité. Bah c'est tellement un vierge. Mais
alors c'est que pour je suis faire vierge, des tu vois. Non, lui, il est hyper sérieux, genre en mode premier degré. Tu
vierge, ouais,
pas
vierge, vierge.
Au pouvoir
vierge.
De la lune.
Non, pas du tout. En plus, je crois que j'y crois pas trop, mais juste j'ai l'impression dans le monde, dans notre communauté LGBT, c'est très important. Il faut vraiment apprendre sa carte astrale pour communiquer avec les gens. Ouais, ouais, pour de vrai. Il y a vraiment des dates. J'ai un pote qui m'a raconté un date. Genre ils commencent, ils boivent la pinte et puis la meuf lui dit bah t'es quel signe? Il dit je suis scorpion. Elle dit bah ça va pas le faire. Et ils doivent finir leur pinte en se regardant en disant non ça va pas le faire.
Ah oui,
c'est très, très étrange.
Ouais, c'est un peu étrange. Ouais,
parce qu'on s'est battu toute notre vie
pour pas avoir des étiquettes
pour dater qui on veut
et mais pas les scorpions. Scorpion.
Alors tout s'accélère.
Non. Ouais.
Est-ce que ça te dérange d'en parler ou?
Non, je suis un peu gênée de parler de mon succès, ouais. non, mais c'est juste, j'ai fait une chronique à France Inter.
Génial.
Et qui a fait genre 1 million de vues, et c'est trop bien.
Allez.
Et du coup, mes salles se remplissent. Et c'est la première fois que ça remplit autant une grande salle comme ça. Enfin, pour moi, c'est grand. C'est 100 places.
C'est énorme, 100 places.
Ouais, ouais.
Sans inconnu, c'est énorme.
C'est trop
sans
bien.
Sans inconnu.
Sans inconnu, ouais.
Non, parce que c'est.
Il n'y a pas de S à 100. Ah, tu voulais dire comme frère de sang.
Voilà.
Des sens, des faut inconnus de sens.
Sens hein, si
non, j'invente mon propre français. C'est ce que je veux, les gars.
Mais ouais, et du coup, il y a la pression de est-ce que je suis à la hauteur de l'attente et tout, tu vois.
Et alors
Eh bien non.
9 n'est pas. 100 personnes qui repartent déçues. Voilà,
déçues chaque semaine.
Qu'est-ce que c'était que ça?
Non, mais je pensais que quand ça avance comme ça, quand il y a des steps qui sont franchis, je peux un peu me reposer et me dire, ok, là tu peux te reposer, ça remplit, machin. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est genre, ok, faut pas lâcher, il faut montrer que tu continues à produire, à travailler.
Tellement
et en fait,
cancer.
Ça met la pression. Tellement cancer.
Non, mais il faut bosser. De toute façon, c'est quand ça marche, il faut bosser 2 fois plus.
Ouais, c'est ça.
Mais t'es tellement un énorme bosseur en amont que c'est ouais. déjà c'est déjà palpable, le travail est déjà là, tu vois. C'est pas comme si c'est pas comme si tu te retrouvais dans un casting national ou une sorte de télé-réalité et les gens se disent bon bah visiblement il y a un spectacle, on y va. C'est là t'es complètement ouais. en cohérence avec ce que t'as donné sur la chronique par exemple.
Oui, avec le travail qui est fait avant, il est toujours là quoi.
Mais c'est quelque chose que t'as construit en plus, tu vois, ce spectacle, ça fait longtemps que tu le travailles et pour moi tu récoltes un peu les fruits.
Oui, c'est vrai.
De ce que t'as planté.
Wow.
C'est beau. Mais on a plein de t-shirts. Hein. On a plein de t-shirts là.
Récolter les fruits que vous avez plantés. Mais moi, je trouve que c'est confortable aussi à un moment donné de quand t'as un spectacle, le taf du remplissage, etc.
C'est
ça fait du bien de. Ok, t'es serein là-dessus et du coup, t'as le temps pour bosser.
Ouais, moi, ça me met dans un autre truc où je me dis. Avant, j'étais là, je suis content quand il y a 50 personnes et maintenant, genre, il y a 4 dates remplies et je suis là, j'espère que ça va continuer. Je suis tout le temps insatisfait. Genre, ça crée des nouvelles insatisfactions.
Cancer.
Bah ouais, c'est...
Non, mais... typique.
Ça, ascendant cancer.
Typique. Sûr.
Ouais, cancer, ascendant cancer.
Ouais, ça se voit, c'est vrai.
Waouh.
On a un point commun, tous les 4 autour de la table, c'est qu'on aime particulièrement Shirley.
C'est vrai?
En tout cas, contractuellement, on est au bout.
Ouais, elle est sympa, elle est sympa.
C'est une sœur de sang.
C'est vrai. Est-ce qu'on peut nous parler de Shirley, Tani?
Moi, Shirley, alors improbable.
Shirley Soignon.
Shirley Soignon. Pas Shirley de Shirley Dino. Que j'ai mis du temps à connaître. Je me souviens à l'époque, je faisais de l'impro à la LIP à Paris.
Et la LIP, la Ligue
d'improvisation de Paris, tout à fait. Et je me souviens qu'on est un after du cours et il y a Shirley qui passe dans la rue et une pote à moi dit ah, c'est Shirley Soignon, j'adore et tout. Et moi, je la connaissais pas, je fais ok. et après, plus tard, quand vraiment je me suis intéressée aussi au stand-up, j'ai découvert ce qu'elle faisait et j'ai trop kiffé. Et en fait, là, ce qui est drôle, c'est que la première fois que je l'ai vue, c'était à une conférence sur le cheveu.
C'est vrai.
À ouais, Sciences
Po. Attends, il y a des conférences sur le cheveu, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Attendez.
Personne ne t'appelle jamais à ces conférences.
Non, mais il y avait une association à Sciences Po qui avait fait un truc sur okay, les cheveux afro, qu'est-ce que ça signifie politiquement, machin. Et Shirley était invitée en marge de cette conférence pour faire des blagues. Et je me suis dit, ah bah vas-y, j'y vais, comme ça, je vais en profiter pour lui parler et la rencontrer. Et en fait, donc j'y vais, je vais la voir après. Et il se trouve qu'entre-temps, moi, j'avais commencé à faire des scènes et j'avais fait la rencontre
on
de Rémi Boy.
On est à peu près en 2016-2017, à peu près
2016, je crois.
2016.
Et donc, j'avais fait la rencontre de Rémi Boy qui m'avait dit, quand je faisais mes premiers textes, « Ah, tu devrais rencontrer Shirley, je pense que vous entendrez bien. » Et en fait, quand je vais voir Shirley, du coup, à cette conférence, elle me dit « Ah, mais c'est toi, Tani ?» Genre, oh, wow. Rémi Boy m'a parlé de toi. Et du coup, c'était cool. Et effectivement, ça a tout de suite matché. Et elle a été un peu mon mentor.
Gros impact.
Ouais, gros impact. En fait, je voulais faire une masterclass avec elle. Parce qu'elle lançait ça quand c'était ouais, 2017-2016. Et finalement, ça ne s'était pas fait. Elle m'avait dit, mais en fait, tu sais quoi, tu n'as pas besoin de masterclass, juste... Je joue le maximum en me donnant des conseils de scène, de comédie club où je pouvais aller. Et après, ouais, elle a toujours été là à me donner des conseils sur l'écriture.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que c'est genre, tu te dis, bon, moi, c'est bon, je vais devenir humoriste, c'est parti, c'est mon plan à 200%. Est-ce que c'est Shirley qui te met le pied à l'étrier? Est-ce que tu te dis non? Est-ce que c'est une phrase qu'elle t'a donnée?
Bah, le truc de joue beaucoup, ouais. Joue et comme ça, tu vas progresser. Ça, c'est vraiment le truc qui m'est resté. Et que je trouve encore vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que la progression pour moi, elle se fait pas forcément dans des cours de théâtre que tu vas prendre à côté. Enfin, Ça peut, mais vraiment répéter, y retourner, se tromper, re-écrire.
C'est un conseil qu'on peut donner pour n'importe quel métier d'ailleurs.
Ouais,
quand
oui,
tu te lances dans une discipline, que ce soit même un métier, ou, enfin, c'est répéter, je pense.
Que ce soit même un métier.
Non, mais.
les autres.
On a de la chance que notre métier, les métiers passion et les métiers moins passion. C'est ça que je voulais dire.
Après, elle a toujours été à me donner des opportunités. Et au début, je faisais ça à côté de mon taf. Et puis après, j'ai fait ça à 100%, quoi.
Moi, Charlet, je la regardais, c'est Montreux, en boucle. Puisque j'apprenais par cœur les sketchs.
Donc, t'avais ce rêve intérieur, quand même, d'être humoriste.
Non, j'y pensais
humoriste.
Pas. Je pensais pas.
C'était juste en passion.
Ouais, un truc de regarder l'humour, genre tous les DVD des Jamel en boucle. Mais je savais pas que genre, c'était possible pour une personne lambda de monter sur scène. Parce que tu vois que les sketchs réussis.
Bien sûr.
Donc, ça paraît impossible. Mais ouais, je kiffais de ouf. Et du coup, je regardais, je voulais trop le rencontrer. Et après, je crois que je l'ai vu la première fois au Barbès Comedy Club. Et il m'a juste vu sur scène et il m'a proposé d'autres scènes un peu plus. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Une fois que tu as l'open mic et après, tu as...
Je ne sais plus comment.
Les petits steps qu'il y avait. Et, mais on s'est pas parlé tout de suite en face. Juste, je savais qu'il rigolait... au fond de la salle. Elle arrivait avec sa capuche comme ça. Elle faisait ha ha ha. Et après, elle disait, toi, tu vas aller sur cette scène-là. Et j'étais d'accord. Et on a pris du temps avant de se parler. Je crois qu'on s'est parlé quand j'ai fait l'émission où on s'est rencontré avec Navo aussi.
Ah oui, sur l'émission du Comedy Club.
C'est là où on s'est vraiment parlé. Et j'ai fait avec Tani, on a fait sa première partie.
Ah ouais, mais c'est dingue, ça me surprend que tu. Vous n'étiez pas parlé plus avant.
Non, mais moi, j'étais effrayée. Je la regardais à la télé.
Et puis, tu venais d'arriver, en plus.
Et je venais d'arriver, c'est vrai, c'est
le
sketch.
Toi, ça y est, t'es une vieille hein, dans le game.
N'est-ce pas ?
On a dit le futur, parce qu'on est le passé. Mais déjà, c'est pas le même futur.
C'est
toi,
vrai,
t'es un peu dans le passé.
Bah, oui,
ça fait longtemps. 3-4 ans que tu es sorti de l'Académie de l'humour. Ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans que je suis sorti de l'Académie de l'humour.
Donc, ça fait 2-3-4 ans.
3 ans.
3 ans que tu fais ça.
Juste 3 ans, ouais.
Alors toi, ça fait quoi, 6 piges, 7 piges?
Ouais, j'en ai de la bouteille, j'en ai
des souvenirs et tout. Il y a un truc que j'ai constaté, c'est que quand on a commencé l'humour en 2007-2008, il y avait, on va dire, 10 grosses stars de l'humour et il y avait des stars en devenir. Mais ça faisait 40 personnes en tout, quoi, max. Et nous, on arrivait, on était une petite quarantaine de plus. Donc, du coup, ça faisait 80 personnes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'humoristes. Clair. Vous constatez ça? Vous constatez ça aussi?
Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a des générations. Et quand je dis générations, c'est tous les ans, en fait, des nouveaux humoristes. Clair. Et à chaque fois, il y en a de plus en plus.
Toutes les semaines, il y a environ 23 humoristes qui apparaissent.
C'est
une vraie statistique. C'est au doigt mouillé.
Mais c'est vrai que je ne sais plus quand quelqu'un me disait « Ouais, bah, je reviens de ce plateau-là, animé par Bidule et machin. » Et en plus,
ah, ça m'assure, même toi, tu ne les connais pas. Parce que des fois, je me dis « Bon, moi, je ne les connais pas. »
Je ne connaissais aucun nom, j'étais là genre…
Je suis un pote de Philippe Gustave. Ah, ok, cool. Et comment il va? On était avec…
Avec lui au Ping Ping Comedy Club.
Ah, au Ping Ping Comedy Club. Je ne savais pas et j'ai l'impression d'être un peu perdu. Donc, si vous êtes perdu, ça me rassure aussi.
Non, c'est dingue.
Fouf.
Ouais.
Non, bah, c'est à la mode. Avant, c'était le chant. Maintenant, ouais,
c'est clair.
Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bah, tout le monde voulait être chanteur ou
Ouais, il y a le slam.
Rappeur. Maintenant, c'est le stand-up.
Vous savez, maintenant, dans le stand-up, ça fait comme le rap. Tu vois, le rap, c'est devenu tout à fait normal de dire.
Tu fais du rap?
Ouais.
T'as un pote qui fait du rap?
Ouais, mais même, tu vois, tu mets Spotify, il y a 4000 rappeurs dont t'as jamais entendu parler. Tout le monde fait un peu du rap. Enfin, pas tout le monde, mais il y a plein de rappeurs. Avant, un rappeur, fallait qu'il soit connu pour qu'on dise que c'est un rappeur. Tu vois, il y a un truc, ça s'est démocratisé.
Ouais.
Et c'est vrai que à notre vieille époque, il y avait pas beaucoup de gens. Tu vois, c'était pas du tout la mode du stand-up.
Est-ce que vous deviez expliquer, genre, je fais du stand-up, quoi? Je comprends pas, c'est quoi?
Bah ouais, de ouf. Bah il y avait, en fait, personne comprenait ce que c'était.
Ah ouais. C'est
mais
dingue,
oui.
Ça.
Pourquoi on te voit pas chez Ruquier? C'était ça à l'époque.
Ah ouais,
pourquoi
non,
on te voit pas chez Ruquier?
Ouais, mais surtout, Ruquier quand il faisait, on ne demande qu'à en rire.
Non, bien avant. Donc, genre, pourquoi t'es pas chroniqueur comme Florence Foresti, tu vois?
Même après, quand ils faisaient On ne demande qu'à en rire, tu voyais que les gens découvraient le stand-up.
C'est vrai.
Le grand public découvrait le stand-up.
C'est vrai.
Et dans le jury, c'est pour ça qu'il avait fait un jury de gens qui représentaient un peu la France, en tout cas, les avis. Il y avait beaucoup de, mais on comprend rien, on dirait un présentateur, t'as un micro. Surtout que leur décor, c'est pas du tout un décor stand-up.
Ouais.
On te retrouvait au milieu, bah, tu ressembles vraiment à Nagui avec ton micro. Et j'étais là, mais pourquoi ?
Qu'est-ce que fait cette personne, quoi, ouais.
À l'époque, j'étais auteur de Shirley, et c'était vraiment ça. C'était, mais pourquoi est-ce qu'elle veut absolument un micro ? On dirait une présentatrice télé. Et ils disaient, ouais, mais il n'y a rien, il n'y a pas de personnage. C'est pour ça qu'elle a fini avec des perruques, la pauvre. Parce qu'après, elle se tapait des bons 20 sur 20 et
c'est
tout.
Vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Mais
quand tu regardes.
Le moment où, où elle m'a dit, non, mais vas-y, laisse tomber, je vais faire un peu ce qu'il me demande là. Et en fait, effectivement, c'était bien pour la promo et tout, mais ça montre que c'était un autre monde, quoi.
Et le gros décalage du spectacle avec le spectacle.
C'est-à-dire qu'elle arrivait, on essayait d'écrire des punchs de stand-up et tout, et c'était là. Mais pas beaucoup d'énergie, pas 8 sur 20.
Oh wow.
Elle mettait une perruque, elle disait coucou tout le monde, voilà, voilà,
ça,
là
ça,
t'es solaire, Shirley, là il se passe quelque chose, 20 t'es sur 20, solaire. Tu rentres dans la troupe.
C'est ouf,
ouais, wow. C'est une autre époque.
C'est quoi le plus dur quand on commence une passion, ou même l'humour, mais quand on commence sa passion, c'est quoi le plus dur ?
De reconnaître que c'est une passion, je pense. Parce qu'après, il y a de l'enjeu. Tu vois, au début, si tu y vas, tu dis, ouais, je teste pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Mais quand tu te dis, ok, je veux vraiment faire ça et je pense que je peux pas vivre autrement, là, il y a de l'enjeu. Et je trouve que c'est dur.
Et toi, t'es en pleine angoisse de. C'est en train de marcher.
Moi, je suis en pleine angoisse.
Ah, ça y est, t'as fait une bonne chronique. Ça remplit un peu. Tu dis, tout va s'effondrer et tout va disparaître.
C'est la fin.
Mais maintenant, je me rends compte que c'est ce que je veux faire toute ma vie. Peut-être que ça va
l'huissier s'arrêter. L'huissier.
Dans deux mois, c'est terminé, en fait.
Je vois trop l'image du petit chien, tu sais, avec le feu partout autour de lui.
Avec le petit chat qui est là.
Oh, it's fine. Everything is fine.
C'est lui, je crois. Mais ah ouais, moi j'aurais pas dit ça. C'était vraiment trouver mon originalité et ne pas trop tenir compte un petit peu, mais de la vie des autres. Parce que je trouve que quand tu commences, ok, tu vois un peu ce que c'est le stand-up
le monde,
et t'as tendance à te formater. Genre, ok, donc apparemment c'est comme ça qu'il faut faire, c'est telle même mise en scène. Et enfin, moi en tout cas, personnellement, je me dis, ok, il faut que je sois un peu comme les autres. Et en fait, non, quoi. Genre,
ah oui, surtout pas, même.
Soit créative.
Oh, c'est hyper intelligent, quand même, de se dire ça dès le début, quoi. C'est très mature.
Ouais, mais j'oscillais, je pense, entre les deux, quoi. En mode, il faut que je fasse quand même, que je rentre dans le moule, mais en gardant ma patte à moi, quoi.
De toute façon, nous, on a une patte on est obligé de l'avoir.
Elle est forte, hein.
T'as dit quoi ?
Moule et patte, c'est métaphore filée de la pâtisserie et tout. Faut que je rentre dans le moule avec ma propre pâte.
On va avoir une métaphore sur le gnocchi juste après. Vous allez voir. Bougez pas, restez là. Vous allez voir,
tout en subtilité. Mais parce que oui, les gens te donnent des conseils. Et c'est rarement malveillant, mais juste eux, ils projettent un truc sur toi.
Ouais.
Et quand ils donnent un conseil, c'est un vrai conseil qu'ils te donnent, mais c'est souvent pas assez abstrait. Je sais pas si c'est clair ce que je vais dire. Je me rends compte, je suis parti dans un délire là.
C'est abstrait.
Ouais, en gros, un conseil, il doit avoir une forme d'abstraction, dans le sens où tu dois pouvoir l'utiliser pour toi-même.
Ouais, c'est une idée, quoi. Enfin,
c'est un conseil. Enfin, en gros, c'est de dire, par exemple, quelqu'un qui va te dire « sois toi-même
».
Bon, c'est très large,
ouais.
Mais c'est abstrait, parce qu'à l'intérieur, il y a toi-même. Mmh. T'es dans l'équation. Alors, quelqu'un qui dit « moi, je te verrais plus, tu vois, très stable sur scène
oui, », voilà,
il va te dire un truc trop précis,
ouais,
en disant « faut que t'arrêtes de remuer dans tous les sens ». Je fais « mais attends, renseigne-toi déjà sur qui est la personne
».
Parce que les gens ont tendance à projeter quelque chose sur
c'est
toi
ça.
Et à vouloir que, tu vois.
Ouais,
c'est un
exact.
Peu le truc que j'ai compris en faisant de la mise en scène et en accompagnant des humoristes. C'est trouve d'abord qui est cet humoriste, qu'est-ce qu'il essaye de faire. S'il ne sait pas, laisse la personne trouver et après, donne-lui des conseils. Mais la plupart du temps, les conseils, on te les donne à l'arrache après un passage de 5 minutes. On te dit, tu devrais faire plus d'humour noir, après on part comme ça.
Ouais,
tu
fais,
carrément.
Tu devrais plutôt dire ça.
Et ouais. Du coup, soit tu écoutes tout le monde et tu vas nulle part, soit tu écoutes personne et tu vas dans le mur.
Oh, mais tellement de t-shirts!
Une bonne boutique.
J'ai trouvé comme ça, l'inspiration, c'est fou. Hein.
Ok.
Non, mais je trouve qu'en tout cas, justement, le fait qu'on est de plus en plus d'humoristes, c'est encore plus important de trouver son originalité. Et parfois, moi-même, au début, j'avais l'impression que c'était très. Enfin, il y a des gens qui considèrent que oui, le stand-up, c'est un pied de micro, un micro, une douche et un truc très minimaliste. Alors que pour moi, l'avenir, c'est que tu peux aussi décider de tout faire péter et de proposer autre chose. Enfin, je vois Noam, qui est un copain à nous, qui mêle poésie, stand-up, voguing, et je me dis, mais il va tout péter parce que les gens comprennent pas. Ils sont là genre, attends, quoi, tu fais quoi? Il y a trop d'infos. Mais ouais, mais ça sort du cadre et c'est...
L'essence même du stand-up, c'est d'être soi.
Ouais, c'est ça.
Donc, soi, ça... Enfin...
Ouais, mais ça rejoint ce qu'on disait sur les générations. Parce qu'au tout début,
tu veux
tellement que les gens comprennent ce que c'est le stand-up, que tu essaies de faire vraiment du stand-up en disant non, il me faut un micro, il faut ça. Déjà, les gens comprennent rien.
Faut
les habituer à ce que c'est le stand-up. Maintenant que tout le monde sait ce qu'est le stand-up,
en fait,
là, tu peux l'éclater.
Merci d'avoir expliqué aux gens ce que c'était le stand-up.
C'est vrai que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi vous voulez un micro?
Mais je comprends pas. Il comprenait pas un micro.
Non.
Mais oui, parce que toi, t'es arrivé, c'était la base. Tout le monde dit il a pas de micro, la honte. C'est pas un stand-upper. Nous, c'était le contraire. Non, c'était mais un casque.
Ah oui, donc il y avait des micros.
Mais oui, mais...
Oui, non, mais même, même dans les petits cafés-théâtres et tout, il y avait des endroits qui étaient des plateaux, mais c'était des plateaux café-théâtre, genre le Café Oscar, par exemple. Mm-hmm. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas de micro pendant un moment. Il y avait un tout petit... Après, à force que les gens insistent, ils ont mis un micro, mais il était éclaté. Là, maintenant, c'est la base. Tu fais un comedy club, le premier truc que tu as, c'est un micro. Avant même d'avoir le comedy club...
C'était vu comme une absence
de technique. La
personne
qui crée le comedy club, elle a déjà le micro. Elle fait, j'ai acheté un micro. Maintenant,
oui,
faut juste que je trouve un comedy club et je vais pouvoir monter un comedy club. À l'époque, c'était comme les gens arrivaient, tu vois, c'était l'époque, la pré-époque Foresti. Toi, Foresti, tu la vois pas avec un micro.
Ouais, c'est vrai.
Elle arrivait, elle parlait à la salle, elle faisait coucou tout le monde, ça va ou quoi?
Et même les vidéos de Coluche et tout.
Je peux avoir un micro? On te disait, il y en a pas. T'es là, faut que je fasse du stand-up sans micro.
Ouais.
Ken, ça allait parce qu'il avait une énergie et tout à l'époque.
À l'époque.
Non, mais tu vois. Il était.
D'accord.
Avant, c'est mon passé, tout ça. Moi,
Ken,
je suis
dans son passé.
Fatigué. Je vais raconter pourquoi je suis fatigué.
Dans ton passé, tu faisais un truc déjà un peu.
Bien sûr, j'avais mixte. Ouais, j'étais mixte. Mais c'était même vu comme le stand-up était très mal vu à ses débuts. Pourquoi? Parce que ça faisait un peu. Et d'ailleurs, c'est un peu la critique. C'est t'as pas forcément de tenue de scène. Tu viens habillé comme t'es. Tu parles comme dans la vie de tous les jours.
Il n'y a pas
d'effort. Donc, il n'y a pas forcément de technique vocale où tu dois t'adresser à des gens. Il n'y a pas de technique théâtrale. T'enlèves un peu toutes les codes de genre, bon, bah voilà, les reprises, les machins, les... Puis parler un peu plus fort. Tu vois, quand tu filmes ça, d'ailleurs, ça peut paraître un peu extravagant comme manière de communiquer. Et du coup, ils voyaient les stand-uppers, dont les gens comme moi, comme des gens qui n'avaient pas forcément de talent ni de technique, qui pouvaient faire un truc que tout le monde pouvait faire. Et du coup, c'était très, très mal vu.
Ouais,
il y a eu beaucoup de monde, genre, mais pourquoi tu fais du stand-up? C'est nul, le stand-up. Il y avait ce débat à un moment donné.
Oui, c'est comme à l'époque du slam.
Ah oui,
voilà. Il n'y a pas de musique, tu te fais pas chier.
Oui, voilà.
C'est pas, waouh, il n'y a pas de musique et tu fais quand même un truc. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, tu as un micro, tu ne pousses pas ta voix, c'est bon.
Ouais, non, mais c'est clair.
Gros feignant.
C'était un peu ça.
Ça a dû être dur de se dire non, je veux faire ça, je vais continuer à faire ça et tout.
En fait, le plus dur, c'est les Noël devant ta famille.
Alors, il en est où? Alors,
tu viens chercher un petit chèque histoire de repartir un peu sur de bonnes bases en janvier.
Mais toi, tu fais quoi, Ken? Moi,
je suis humoriste. Ah, c'est quoi? Et t'es pas chirurgien? Non, je suis pas chirurgien. Et alors, tu fais ça, t'as un rêve, quoi, t'essaies d'avancer, et puis c'est vrai que c'est compliqué, quoi.
Ça, après, même encore maintenant, enfin, je veux dire, dans la famille, t'entendais, avant Tani, il y avait un vrai travail, maintenant.
C'est vrai, vos familles sont un peu réticentes.
Mais ils n'identifient pas ce qu'est le stand-up?
Non, c'est plus la génération de ma grand-mère, etc. Pour elle, c'est plus un hobby, quoi. Enfin, t'en vivrais pas vraiment, quoi.
Arrête de faire peur à Lou.
Lou?
Pardon.
Non. Il est là. Non, mais moi, mes parents, ils étaient scénaristes très longtemps.
Des artistes.
Oui, c'est ça. C'est des artistes, donc ils acceptent plus le stand-up que la transidentité. non, mais du coup, ça, ils ont toujours compris parce qu'ils viennent de milieux artistiques et tout.
Est-ce que vous avez senti... Je peux vous poser une question? C'est quoi l'humour queer? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle l'humour queer?
Qu'est-ce qu'on dit?
Mettez-vous. Mais c'est quoi l'humour queer?
Vous pouvez appeler le club des queers et leur demander ce que c'est votre queer. Humour. Vous faites des réunions queer avec tous les queers du monde.
Toutes les chartes astrales de tout le monde.
Est-ce que c'est une question bête déjà?
Ranger.
Non, je pense que c'est une bonne question.
Mais
je te laisse répondre peut-être.
Ok.
C'est une super question. Je vais pas y répondre par contre parce qu'elle est vraiment.
Non, vous avez le droit de me dire que. Attention, on a le droit de me dire que les questions puent la merde. Ça, c'est hyper important, mais je dois apprendre de ça.
Non, ça pue pas la merde.
J'en ai.
Bah, déjà, queer, c'est donc toutes les personnes qui ne sont pas cis et hétéro, donc qui ne sont pas dans les normes de genre et de sexualité. Et
donc, y a un... cis, c'est en opposition à trans.
À trans, voilà. Ouais,
c'est, là, on fait la petite, la petite minute éducative.
La petite minute éducative qui...
Et cis, ouais, souvent les gens ils pensent que c'est une insulte, mais pas du tout. C'est juste, t'es né, on t'a dit t'es un mec, et t'es là, ouais, je suis grave d'ac, je suis un mec. Et quand t'es trans, c'est genre, on te dit t'es un mec, t'es là, ah, pas ouf, je suis une meuf. C'est hyper bien expliqué. Wow.
Non, mais en même temps, j'ai dit que c'était la minute éducative. Tu l'as vraiment très bien expliqué. Voilà,
une
c'est
meuf
bon.
Ou non-binaire.
Ou non-binaire, ouais. Donc,
oh ça, non, attends, ouais. On a dit simple. On fait simple, on fait simple. Ne serait pas les gens. Ils y vont par étapes.
Tout à fait.
Mais en vrai, j'ai une blague où je dis que nous non plus, des fois, queer, on sait pas trop ce que c'est. Quoi. C'est vrai. Mais en tout cas, très globalement, voilà, c'est un peu les gens en dehors des normes. Voilà. Et queer aussi, ça a une histoire politique. Genre, à la base, queer, c'était anarchiste. C'était très lié. Tu vois, tu peux être LGBT, tu peux être lesbienne, gay, mais pas être milité ou considérer que ton identité est politique. Et queer, il y a vraiment une histoire politique derrière. Donc voilà, queer, c'est ça, c'est militer. Et être LGBT.
Et parce que c'était une insulte à la base.
Et c'était une insulte.
Les militants se sont réappropriés.
C'est ça.
Ah, c'est, ah, ouais, c'est parce que c'est plus du tout une insulte aujourd'hui.
C'était, ça veut dire bizarre. Veut dire et donc bizarre, c'était aux États-Unis,
c'est quoi.
We are queer.
Ah, ok, d'accord.
Dès que quelqu'un était un peu efféminé, enfin un mec. Féminé,
oui, c'est vrai, queer. Je me suis demandé si c'était avec cet accent-là aussi. Les gens qui disaient ça. Ils le faisaient avec cet accent.
Un queer, c'était Texan. C'était
Texan. Au Texas, c'est pas sûr.
Oui, parce que du coup, il y a un peu le côté Jean-Jacques et Jean-Paul, 53 ans, gays, en couple, qui votent à droite et qui s'en battent les couilles de vos problèmes, sont pas spécialement queer.
Oui, voilà, c'est ça. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, il y a vraiment.
Attends, c'est toi qui décides. On t'a pas dit.
C'est moi qui décide.
Ouais. Ah, d'accord. Ils ont dit maintenant, c'est Lou.
Ils
on
Lou,
a vu sa chronique France Inter. Si c'est, lui,
merci.
C'est lui. C'est lui qui décide de tout maintenant.
Donc déjà, ouais, c'est ça. Et je pense que l'humour queer, y a pas genre, c'est pas l'humour queer comme il y a l'humour noir ou l'humour absurde. C'est pas, il y a pas des blagues spécifiquement. Où il y a des paillettes qui sortent, il y a la chute qui arrive, tu vois. C'est pas ça, mais il y a des gens, des personnes queer qui font de l'humour. Je sais pas comment expliquer. Putain, bah, c'est hyper
En fait, déjà, je pense que dans le comment dire, le militantisme.
Une forme d'engagement, queer, c'est une forme d'engagement.
L'humour déjà, a été toujours très présent. On parle d'humour camp, je crois.
Ah ouais?
Bah ouais, non?
Ah bon?
Écoutez...
Mais camp, c'est pas genre Ken dans Barbie?
Camp! C-A-M-P. Bon, ok, je vais arrêter de parler anglais. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une culture dans le militantisme queer d'avoir des slogans marrants.
Oui.
Il y a, enfin, le drag queen, le drag king, il y a beaucoup de. C'est très humoristique pour moi. Et donc, c'est aussi se moquer des oppressions qu'on vit, prendre du recul sur la situation pour rendre la vie moins dramatique. Mais donc je pense que moi, en tout cas, je retrouve ça chez les humoristes queer qui font du stand-up. Et ouais, c'est parler de nos identités en tant que sujet et ouais, y mettre un peu de joie, de fierté. Mais bon, en fait, comme le font plein d'humoristes, quoi.
Exactement.
Qui vont... dédramatiser le fait d'être une meuf, le fait d'être de telle nationalité, de vivre telle chose. Et donc, du coup, bah, je trouve que ça existe aussi pour les personnes queer, en fait.
Oui, on existe. Nous sommes là.
Non, mais et oui, je pense que c'est
mais nouveau. C'est ça, c'est formidable. Justement, ça ouvre, ça, ouais. Vous êtes en train de paver une route pour la suite, justement.
Ouais, ouais.
Bah, qui a commencé, je pense, à être pavé justement par des personnes comme Shirley, etc. Mais en tout cas, et je trouve que c'est cool parce que, enfin, moi, ce week-end encore, après mon spectacle, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, enfin, nous voir en nous disant, on pensait que le stand-up, c'était pas fait pour nous.
Ouais.
Quand on voyait de l'humour, on se reconnaissait pas. Et là, j'ai trop rigolé. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Et donc, c'est ça qui est cool, quoi. C'est qu'on attire aussi des nouvelles personnes
ouais, c'est ça,
dans le stand-up.
Je sais pas, toi, moi, au début, quand j'ai commencé, on m'a dit vraiment, j'aurais pas de public, ça parle pas au public stand-up. Et en fait, ça a ramené
mais qui dit
des
ça,
gens.
Qui dit ça?
Je vais pas donner des
noms.
Non,
on s'en fout de non, mais comment ça se passe quand quelqu'un vient te voir et te dit, excuse-moi, non. Non. Bah, est-ce que quelqu'un on te prend dans un café, on te dit écoute, voilà, ça marchera pas. C'est qui dit ça en fait? Qui a le toupet de pouvoir dire ça non, de se projeter?
Je pense que c'est même pas malveillant de la part de la personne.
Tu crois que c'est bienveillant?
C'est pas bienveillant au final, Mais je pense pas que la personne est dans une démarche malveillante. Tu me dis si je dis de la merde. Hein. Mais parce que la personne est persuadée.
Je pense que c'est des gens qui ont des salles, par exemple, qui s'inquiètent du remplissage, tu vois, avec ces points de vue-là.
La personne est persuadée qu'il n'y aura pas de public. Donc c'est un peu un con, mais le même dans toute catégorie. Voilà. Quand on disait fais pas de stand-up parce que personne va venir, fais des personnages. C'est le même type de conseil, sauf que là, en plus, ça touche à une identité. Au moment où tu dis, mais quand même, je vais. Donc, en gros, c'est de dire, mais non, mais OK, une fois que tu auras fait. En fait, la personne s'imagine, je pense, qu'au bout de 10 personnes dans le marais, il n'y aura plus personne dans ta salle.
Ouais, c'est ça.
Alors moi, qu'en fait, il y a un vrai public. Ouais. Et surtout, le public n'est pas obligé d'être queer pour aimer l'humour queer. Et plus vous allez en faire, et plus les gens vont juste dire, bah, j'aime bien.
Mais au début, moi, je trouve que ça a ramené des gens qui disaient justement, bah, ça fait longtemps que je regarde plus de stand-up parce que je m'y reconnais pas, ou je vais dans les comédie clubs et puis il y a systématiquement des blagues homophobes, racistes, et du coup, j'y vais plus parce que je suis concernée par ces questions. Et du coup, qui sont revenus en masse, quoi.
Ouais.
Et je l'ai vu avec Tani.
Le côté safe, en fait. Le fait de dire ça va être plus safe.
Oui, le fait d'être safe, bien. Ils savent, ils vont passer un bon moment sans prendre cher sur leur identité. Et pourtant, je critique dans mon spectacle les queers aussi. Enfin, il y a de l'autodérision, mais c'est
la base de l'humour queer, la base.
Voilà,
l'autodérision.
Oui, carrément.
Oui, vraiment. Mais et du coup, ça remplit. C'est un premier public très, très fidèle qui revient beaucoup, qui ramène
du monde.
Ouais. Et après, là, maintenant, je découvre que mon spectacle parle aussi à d'autres gens parce qu'en fait, comme tu dis, l'humour queer, c'est pas pour les queers. C'est en partie pour les queers, mais tout le monde est concerné. Tout le monde a un genre, tout le monde a une sexualité. Et du coup,
et
ça
c'est
concerne
nouveau
tout
aussi.
Le monde.
Les gens aiment la nouveauté et entendent parler de sujets dont justement on entend beaucoup parler dans la société, mais pas forcément par les personnes concernées, ou en tout cas le fait d'en savoir plus, et en plus on rigole. J'ai envie de te dire.
On apprend en s'amusant.
j'ai fait une scène je sais plus, point de ville de Rivière, enfin un petit village avec le printemps du rire. Genre, ils t'emmènent faire des tournées dans un petit village. Et j'avais grave des a priori, c'était dans une salle de fête, il y avait des genre vraiment des gens hyper vieux et tout. J'étais, mais ça va pas du tout plaire. Mais non, mais j'avais trop des a priori de sous prétexte que je vais dans un petit village, ça va pas marcher. Enfin, c'était trop nul de ma part. Et je suis allée, ça a grave marché. Et le premier truc que les gens m'ont dit, c'est la première fois qu'on nous parle pas comme des cons. Genre, moi, je pensais que les personnes trans...
Tu les
trans,
as juste pris pour des cons, mais comme tu leur as pas dit, t'es là, toi, t'es un mec super.
Oh, mon Dieu.
Ah, enfin, quelqu'un qui nous respecte. Oui, oui. C'est exactement dans cette démarche que je suis arrivé.
Non, mais en vrai, je suis montée sur ça, je me suis dit, c'est bête de penser comme ça. Et du coup, je leur ai posé des questions. Au lieu de faire mon sketch comme ça, j'étais là... Bah, du coup, j'arrive sur scène, vous pensez que... Comment vous me voyez? Je suis un garçon, je suis une fille, il y avait des enfants. Et ils étaient là, bah les deux. J'étais, ah bon, ok, super, vous avez tout compris.
Vous êtes prêts? Bon, les vieux, par contre, au fond.
Oui, c'est ça. Mais c'était... Enfin, il y a vraiment un truc où ils m'ont expliqué qu'ils avaient des a priori sur les personnes trans ou les personnes LGBT parce qu'ils voyaient des trucs à la télé et tout de... Bah, vous comprenez pas, et quand t'arrives et que tu fais de l'humour, et que t'es avec eux, et que t'es sur scène, et que tu leur souris, et que tu leur parles, et que tu crées un lien, ils disent, ah ok, en fait, voilà, ça prend, on ne parle pas comme des cons, bah, on est à l'écoute. Et l'humour, ça permet ça, je trouve.
Je pense que t'en as, au bout de 20 minutes, j'ai oublié. Au bout de 20 minutes, c'était un humoriste, en fait, on rigolait bien, c'est fou, en fait.
On voyait plus le petit duvet de... C'est plus trop gêné.
C'est fou cette première barrière. C'est une barrière mentale. C'est une première barrière qui, une fois qu'elle est partie, c'est terminé. Même à vie, c'est une forme de step-up en fait dans la tête des gens. C'est ça qui est formidable. Toi, Tani, tu voulais dire quelque chose, Lou?
Non, je pense que j'ai assez parlé. Non, je sais pas.
Tani,
on a des temps de parole.
T'as ressenti que. Non, j'ai aucun temps de parole. On fait ce qu'on est sur Internet. Et sur Canal+. Abonnez-vous à la chaîne. Est-ce que tu as senti que ton propos ou ton engagement ou le simple fait que tu montes sur scène, toi, est-ce que tu as senti que ça a à un moment donné apporté des blocages où des gens t'ont essayé de te transformer, de te dissuader ou de te... Quand tu vois, les gens qui disent ouais, tu devrais plus faire ça, mais plus dans ton propos et moins dans ta... Peut-être juste dans ton... Moins dans ton acting.
Oui, carrément. Le truc de, en tout cas, les gens qui projettent quelque chose sur toi, je trouve que aussi, peut-être moins maintenant, mais quand j'ai commencé le stand-up, je trouvais que je sentais le truc de, quand t'arrives sur scène et que t'es une meuf, déjà, il y a des gens qui, t'as l'impression que dans leur tête, ils vont se dire, ça va être moins drôle.
Bien sûr.
Et donc, moi, je sentais que je devais être dans un truc de, ok, il faut que je les convainque encore plus, quoi. Et après.
Comment on sent ça? Comment on ressent ça?
c'est, je sais pas, c'est des, pour moi c'est des attitudes quoi, je sais pas, des gens qui vont tout d'un coup se mettre comme ça, ou enfin ou je sais pas, des rires que tu sens, que tu sens ouais moins fort, moins, je sais pas, t'as l'impression d'être moins avec les gens. Et et puis parfois tu, en fait tu le découvres aussi dans les retours, en mode au début je me suis dit ah ça va pas être drôle, et en fait enfin tu vois
c'est un truc qu'on te disait régulièrement, ce fameux au début je me disais, mais en fait au final c'est
ouais
un truc...
ça revient. Et après particulièrement oui aussi sur le fait de parler de mon coming out, du fait d'être lesbienne, il y avait des retours en mode, je pense que comme tu disais tout à l'heure, c'était pas méchant, c'était plus, à mon avis, tu devrais pas trop en parler parce que les gens vont t'associer à ça, ou tu vas te cataloguer, etc. Et puis, je sais pas si les gens ont envie d'entendre parler de ces sujets.
C'est une forme de phobie, peut-être, un peu. C'est une version détournée de dire je veux pas que t'en parles, ou plus de dire, plus que les gens, on invente une communauté de gens qui n'existent pas.
Ouais,
il y en a, mais je connais 3000 personnes, ils m'ont tous dit ah non, ça on ira pas voir.
C'est vrai,
ça n'existe pas, les gens n'existent pas, le groupe n'existe pas, la communauté n'existe pas.
C'est clair. Mais quand tu commences, du coup, tu doutes, quoi. Tu te dis, ok, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'effectivement, on va me cataloguer là-dessus, quoi. J'ai vraiment eu des mecs qui voulaient m'aider à écrire ou travailler avec moi, qui me disaient, mais tu sais, Tani, tu n'es pas que lesbienne, tu es drôle aussi. J'étais genre, oui, enfin bon, c'est...
les ça deux, n'a rien à voir.
J'ai le droit d'être les deux.
Oui, c'est ça.
Donc, et après, du coup, t'es vite tenté de vouloir prendre le contre-pied et de dire, alors, du coup, je vais en parler encore plus. Et puis après, je pense que au final, c'est vraiment... en écrivant assez vite mon spectacle, que
tu,
je me suis rendu compte que ça...
Seul.
Je travaillais avec une pote qui s'appelle Sybille de Montigny, qui m'aide à la mise en scène et à l'écriture. Et en fait,
un œil extérieur, quelqu'un qui va te driver, qui va t'encourager.
Et en fait, nous aussi, on s'est fait un peu dépasser. Enfin, quand j'ai commencé à la Comédie des Trois Bornes, je me suis dit, OK, je lance mon spectacle. Et en fait, tout de suite, le premier mois a été complet. Enfin, j'étais là genre, ah ouais, donc en fait, il y a plein de gens qui ont envie d'entendre ce que je veux dire, en fait. Donc j'ai bien fait de le dire. Et du coup, je trouve que c'est aussi un truc où ce qui a été, moi, ce que j'ai ressenti comme une difficulté supplémentaire dans mes débuts dans le stand-up, c'est que j'ai l'impression qu'il a fallu aussi faire ce taf d'aller chercher des gens qui allaient pas forcément voir des plateaux à nos spectacles, enfin se créer des espaces, des endroits pour ratisser ce public qui était pas encore là,
c'est
quoi.
C'est un bon conseil, pour les gens, c'est si vous faites quelque chose qui justement est un peu parfois sous-représenté, qui est quelque chose qui est un peu créatif, qui n'existe pas vraiment et qui justement a tout est encore à créer, tous les codes. Ben, il faut pas lâcher, parce que de toute façon, vous allez sur le chemin, il y a des gens qui vont vous dire le fais pas, non, fais pas ça, c'est pas safe. Toi, te créer ton safe, en fait.
Ouais,
toi, te créer ton truc.
Tente ton truc.
Je trouve ça extrêmement courageux.
Bah, c'est pour ça qu'on a créé aussi les comédie clubs.
Le Comedy Love.
Tous les trucs qu'on a créés, c'était complet, mais à craquer et tout. On s'est rendu compte de la demande.
C'est fou, ouais.
C'était impressionnant. Enfin, moi, j'ai un plateau à la Mutinerie qui est le plus vieux bar queer de Paris, quoi. Et j'ai lancé, je pensais qu'il n'y avait personne, et puis il y a eu des malaises tellement il y avait de monde, tu vois. Donc, bon, c'est pas
les
hyper
Beatles.
Cool.
c'est génial,
il faisait chaud, il y avait des gens,
des
gens debout, et les gens peuvent pas rentrer, et on était là, waouh, la demande qu'il y a.
Ouais, c'est vrai.
Et c'était ouf de se rendre compte de ça, en créant juste un truc, genre bon, bah voilà, on va mettre un micro.
ouais, c'est fou.
Et on va faire des blagues, et juste on dit, il n'y a que des queers sur scène. Et ouais. C'est beau.
Mais je trouve ça très beau. On fait un petit multi-blind test, Navo ?
Passe
au multi-blind test de Navo.
Ok, est-ce que c'est le moment de dire que j'ai aucune culture musicale ?
Oui.
D'accord, j'ai aucune culture musicale.
Okay. On en prend bonne
note.
Est-ce
que je te out ou pas ? Par rapport à quelqu'un que tu connaissais pas ou... Non, j'arrête.
Est-ce que, c'est quoi le dernier son que t'as écouté là récemment ?
Mais parce qu'il est jeune.
Parce
regarde,
que je suis jeune,
elle se moque de toi.
En fait, mon casque audio est cassé.
C'est vrai. Et
du coup, j'ai coupé.
Ah, d'accord.
Mais oui,
depuis quand il est cassé ? Depuis 25 ans ?
Depuis... J'ai 26
ans. Oui, c'est pour ça que je te dis. Depuis 26 ans, il est cassé.
Je sais pas, j'écoute. J'écoute beaucoup.
Bah, laisse-le tranquille, il m'a dit qu'il a aucune culture. C'est quand même comme si je suis nul en géographie. Tu fais, ah ouais, c'est où Besançon ?
J'ai dit, quelle est la dernière chanson que t'as écoutée ? C'est pas non plus. C'est pas un accès à la culture.
Bah, la dernière, c'était.
Tu peux même être. Bah, là, en arrivant dans le bus, il y avait un gars, il écoutait ça, j'ai écouté ça, tu vois.
Même ça, ça le met en galère. Il a vraiment pas de culture.
Et ben voilà.
Ouais. C'était un jour. C'était un jour meilleur. Je sais pas, elle me fait du bien cette chanson quand je suis déprimée. Ouais. Ou que mes amis sont déprimés. Ça va bien en ce moment.
J'ai du succès.
Quand j'ai
au
trop
secours.
De succès, que j'ai peur parce que j'ai du succès.
Mes salles sont pleines. Non, jour
un
meilleur.
Jour meilleur.
J'espère qu'un jour mes salles seront encore
c'est
pleines.
Horrible,
c'est trop trop.
Non, mais c'est intéressant. C'est une
on bah, est content, alors, mais. En
alors,
même temps,
alors,
y a
alors si je peux, s'il y a bien une personne qui peut comprendre ici, je pense que c'est moi.
D'accord.
Ça a été terrible. Non, mais ça a été terrible de stress. Et t'as envie d'être à la hauteur, en fait.
Ouais,
et cette peur, elle prend la place de plein de choses, de craintes, de machin, de stress, de montée de tension, alors que c'est juste, t'as envie d'être à la hauteur.
Ouais, c'est
et t'as envie d'être ce que les gens viennent voir, ils se déplacent, t'as envie de leur donner un show incroyable. Mmh. Et voilà. Et ça s'appelle de l'exigence.
C'est un petit syndrome de l'imposteur, un petit peu. Genre, tu crois que t'es pas à la hauteur du succès que t'as, alors que si, sinon tu l'aurais pas le succès.
Ouais, j'ai l'impression que c'est de la chance. Comme quand je conduis, quand je survis à la fin.
La chance, ça aurait été quelqu'un débarque et te filme par hasard, et tu dis, sans faire exprès, une phrase trop marrante, et tout le monde t'adore et dit vivement qu'il soit au Zénith.
Ah ouais.
Faire une chronique qui est ton travail, où tu utilises de l'humour qui est ton travail, et les gens disent, j'aime cet humour, je vais venir. C'est le contraire de la chance.
C'est vrai.
L'opportunité, la chance que France Inter t'ait proposé, et encore, c'est pas de la chance, c'est à force
c'est grâce
de
à Tani et moi. Voilà. Bah, c'est vrai.
C'était totalement par hasard. On s'est dit, tiens, allez, on va dire loup.
Non, mais c'est vrai.
Oui, on se porte.
On se porte les uns les autres, quoi.
Oui, mais je pense pas que Tani t'aurait proposé si elle s'était dit, non, mais il va se gaufrer, il va rater, il n'est pas prêt.
J'avoue.
Elle a proposé parce que c'est bon.
C'est bon, quoi. Ouais.
Bon, merci.
C'est talentueux, ok.
J'ai juste dit ça pour entendre ça. Non, mais
merci. Ça fait du bien de l'entendre.
Le blind test de Nabo.
15 ans d'entraînement, tu vois, comment ça marche bien. Hein. Ça t'a fait un peu du bien. Voilà. J'ai l'habitude.
C'est mon pansement.
Alors, il y a les Black Eyed Peas, non?
Non.
C'est pas Britney?
Non.
Vous devez deviner aussi?
Est-ce qu'il y a les Rolling Stones?
Non.
Attends, il y a un truc débile, genre.
Patrick
Sébastien.
Il y a Patrick Sébastien. Et voilà, c'est ça que vous écoutez alors.
La fiesta.
Maintenant, on en sait plus. C'est la fiesta, en plus, t'as reconnu le titre. Putain.
La culture musicale de Tani.
Alors, c'est ça que t'écoutes, Tani. J'aurais pas du tout.
J'ai beaucoup écouté cette chanson en soirée pour rigoler, ouais.
Voilà. Je me rends compte que 5 musiques en même temps, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête quand je suis très anxieux.
Ouais, c'est ça. C'est ce que Ken m'a dit les premières fois. Il m'a dit,
c'est
putain,
clair.
C'est ça l'anxiété, regarde.
Ouais,
t'as trouvé le son d'anxiété.
C'est Patrick Sébastien, l'anxiété.
Ah. Alors, j'ai viré Patrick Sébastien.
Vas-y,
pas de la télé, hein, mais je l'ai viré des morceaux. Il en reste 5.
Très bien.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Get a red brown. Je sais pas la
c'est
chanteuse.
C'est quoi ça?
Ouais, exactement. Ouais.
Je crois que c'est un danse, c'est pas dans le morceau, ça, je crois. Je remets, vous allez pouvoir vous focus dessus.
Ouais.
Est-ce qu'il y a Tina Arena?
Ah yes!
Il y a Tina Arena. Aimer jusqu'à l'impossible.
Aimer jusqu'à l'impossible.
Ça peut-être nous faciliter le morceau que vous aviez un peu en tête.
Non, je ne connais pas.
Il y a Oasis.
Il y a Oasis.
Oh, wow. Wonderwall. Laquelle?
Merci. Wow, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous faire. C'est un wow qui fait plaisir.
Wow.
C'est vrai.
Wow.
C'est vrai que tu dis tout le temps
je
ça.
Tout le temps ça. J'ai d'ailleurs intitulé ma maison The Wow House.
Ah d'accord, ok.
Attends,
c'est bon.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, c'est à trouver.
Quoi?
Non, non, j'ai pas les deux. Mais
non, mais il y en a trois encore.
Ah vas-y, vas-y.
Il y en a trois. Ok.
Il y a Adèle. Voilà, c'est ça.
Il y a Adèle. Il y avait un indice.
Il y a un indice, c'est celle que je vois. Il y a quelqu'un qui s'entraîne dans sa salle de bain, là, je vois ça.
Avant, je parlais de tout le monde voulait être chanteur avant. J'ai cru que j'allais être chanteur. J'ai fait Planet Rap quand même.
Arrête. Quoi? Attends, il y a des images de ça?
Ouais.
Oui.
C'est où? Chez qui? Où?
Comment? Comment?
Alors, je vous raconte l'anecdote.
Ah, je veux savoir.
Je suis une grande fan de Oxmo Puccino.
Qui ne l'est pas.
Et
est-ce qu'on peut aimer le rap sans aimer Oxmo?
Effectivement. Et en fait... Et en fait, il avait lancé un concours quand il a sorti un de ses albums en 2015-2014.
Il y a longtemps. Il
fallait faire des reprises de ses chansons. Et j'ai fait une reprise dans ma salle de bain. En plus, c'était un peu ça la blague, parce que je voulais que ça fasse un son un peu avec des reverbs du carnage.
Les Beatles enregistrés dans la salle de bain.
Ah, voilà, voilà.
À vérifier, c'est une info internet.
Et du coup, je me suis filmée en train de chanter la chanson qui s'appelait « Je te connaissais pas ». Et j'envoie ça en me disant « Voilà, je sais pas ce que ça va donner ». Et genre, j'ai un appel en mode « Oxmo a adoré ta chanson ». Il vient de la publier sur Facebook.
Oh, wow.
Et il est invité la semaine prochaine à Planet Rap. Il veut la jouer en live avec toi.
Oh, génial.
Wow.
Donc il y a une image quelque part de toi qui joue.
Ah, bah, y a la vidéo sur YouTube. Ouais.
Ah, bah,
j'adore.
Déjà Tani. Laissez-nous mettre cette vidéo.
Si on tape Tani Oxmo.
Non, c'est pas sous ce nom-là.
Il y a un nom. Il y a un pseudo. C'est quoi le pseudo?
C'est quoi le pseudo? On veut savoir maintenant.
Allez,
faut qu'on retrouve la vidéo.
Mon pseudo était Nesta.
Ok, Nesta.
Bah ça va, c'est bien.
Nesta, c'est pas le deuxième prénom de Bob Marley.
Bob Marley, tout à fait. Voilà, voilà.
C'était en hommage à Bob.
Vous pouvez voir cette pépite sur YouTube. Je te connaissais pas comme tant d'autres, j'étais assurée qu'aucune ne m'aurait dans la durée. Avec toi spécialement, je peux m'y faire. Dans l'espace, deviens mon hémisphère.
Eh ben, sache que
j'adore.
La fille de mon meilleur ami s'appelle Nesta.
Oh, waouh, ok. Et d'ailleurs, et donc,
je n'ai pas de fille.
C'est pas toi.
Donc, je suis un peu surpris. Que, je comprends pas pourquoi
c'est pas toi.
Ça.
C'est pas toi.
Oh, oh.
Ah. Bah, tu iras pleurer auprès de ton meilleur ami Gauthier.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la chanson, du coup, c'est un peu une déclaration d'amour à une meuf. Et j'avais changé les paroles pour, enfin, au féminin pour moi parler d'une meuf. Et dans ma tête, c'est mon mini coming out.
Wow. Oh, petit coming out. J'ai petit coming out.
Oui.
J'ai petit coming out.
J'essaie de trouver, mais je suis pas bon en anglais. Un truc comme coming, mais en plus lent, quoi. Mais
non, mais c'est un coming out, mais c'est un coming out. Perron. C'est le perron de la porte.
C'est sur
le perron de la porte. C'est pas dehors. C'est vraiment juste devant la maison.
Open the door.
C'est un open the door.
Peut-être out. Peut-être pas.
C'est marrant, c'est la première étape du coming out, c'est l'open the door.
Il reste deux chansons.
C'est clair.
Attends. Ça veut dire qu'il faut les deux en même
donc
temps.
Donc ça veut dire qu'il y aura ce fameux...
On n'a pas le droit d'en donner qu'une. Si on en donne qu'une, on aide l'autre.
Ah, ok.
Bah écoute...
T'aideras
moi,
l'autre.
Perdre,
j'espère qu'il y en a une autre.
On négocie les règles déjà. Quoi?
J'espère qu'il y en a une autre de Patrick Sébastien.
Elle est fan.
Non, je
dis
ah.
Ah, d'accord, ok.
Ah,
tu vois.
Ah, bah, Mathieu Chedid.
Ah oui, mais qui?
La scène des mois.
C'est quoi le deuxième?
Et après, c'est Get Down, mais j'ai pas le. L'artiste. Je sais pas qui c'est.
Là, vous devez l'avoir, moi.
Non, je sais. No Diggity.
C'est No Diggity et...
No Diggity et la scène.
Yes. La scène de
Mathieu Chedid
et Vanessa Paradis.
Et Vanessa Paradis.
Et No Diggity de Black Street.
Ah, les Black yes. Street Boys, non, les Black Street, on disait.
Les Black Street, Black Street Boys.
Black Street Boys et Black Street.
Pas mal.
C'est quoi le... Ah tiens, j'ai une question à vous poser que j'adore.
Oh, oh,
est-ce que
il j'aimerais, adore sa question.
J'aimerais... Oh, j'adore ma question, je suis un fan. J'ai un poster de ma question tellement je la kiffe.
T-shirt.
Et j'ai dit... dispo sur une mobile. Non. Il y a un peu un truc de dire « Ouais, l'école, c'était un peu chiant, c'était un peu relou et tout. » J'aimerais savoir si vous avez un professeur ou une professeure qui vous a marqué. Et si oui, en quoi?
Elle vient de me contacter ce matin.
Ouais.
Exclu total, un bon moment.
Ouais, c'était ma prof de philo au lycée en terminale. Et
pourquoi tu rigoles?
Parce que je pense que la prof de philo est vraiment pas
bon exemple. Là, tu fais genre, wow, la chance.
Je vais courir, quoi. Enfin, je l'ai jamais demandé, mais.
Les clichés, qu'est-ce que tu peux être plein de clichés, toi?
Non, mais...
plein d'a priori sur les gens.
Non, mais quelqu'un de très intelligent qui vraiment nous disait, ne comprenait pas des fois pourquoi on n'y arrivait pas, parce qu'elle lisait, moi à 7 ans, je lisais Freud et je comprenais. Et du coup, on devait s'adapter un peu à... Mais une des premières qu'a reconnue, qui m'a dit que j'avais une bonne capacité de travail. Et je me suis dit, ah, j'ai une bonne capacité de travail, je ne savais pas où étaient mes trucs. Tu vois. Et elle m'a beaucoup aidée, même personnellement, elle a toujours été là, très présente. Et elle est très engagée politiquement.
Elle s'appelle Madame tu vois pas peut-être la...
Bon, elle s'appelle Pereira, Madame Pereira.
Madame Pereira, en tout cas.
Voilà.
C'est pas risqué, parce qu'on a environ 16 millions de Pereira. Donc ça...
Oui, c'est ça. Mais vraiment, elle est impressionnante. Enfin, dès qu'elle veut écrire quelque chose sur, en philo, elle voulait travailler sur les travailleurs. travailleurs de la culture. Bah, elle a trouvé un taf dans la culture et puis elle a écrit un bouquin dessus. Elle a fait ça pendant des années. Après, elle a voulu être prof. Elle donnait des cours de philo en prison aussi. Enfin, une meuf de ouf. Et elle m'a contactée ce matin et je suis hyper touchée parce que j'ai apprécié de ouf. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est dur d'être queer au lycée, un peu seul tout, pas trop savoir quitter, être un peu bizarre, pas être comme les autres. Et du coup, elle m'a vachement soutenue. Et là, elle m'a contactée, mais elle a envoyé un message trop bizarre. C'est le genre de personnes qui ne savent pas dire des trucs sympas et qui mettent des points à la fin de leur phrase. Et du coup, je pensais qu'elle m'engueulait.
Vous êtes vraiment super.
Oui, ouais, ouais. Vraiment, c'était ça. C'était beau parcours, bonne continuation, point. J'ai l'impression qu'elle me refaisait un bulletin.
Peut mieux faire.
Après, les personnes un peu plus âgées, ils envoient les télégrammes quand ils envoient un texto ou un message. Quoi. Pour eux, ils mettent des points. Ouais, ouais. C'est...
Mais en fait, ils mettent des points à la fin des phrases et maintenant, on leur dit qu'est-ce que t'es méchant.
Ouais.
Quoi, mais...
C'est vrai.
Moi, j'ai dû mettre, je pense, un an. Avant de comprendre, vraiment, mets des smileys parce
que mais
quand tu réponds OK point, les gens ils ont le seum contre toi. Ils font, t'es pas obligé d'être agressif.
C'est ça.
J'ai juste dit OK, juste quand j'étais petit, on m'a appris, il faut mettre des points à la fin des phrases, mais.
Et en même temps, des fois, j'envoie les mauvais smileys. Je t'ai répondu pour un truc de texte et j'ai mis un smiley avec des cœurs partout. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait?
Ah bon, merde. J'étais super content, moi.
Ah oui, c'était
cool. Moi, j'étais trop content.
Moi, j'étais trop content. Comment est-ce qu'on est pro? En plus, je te répondais.
Il y a Lou qui m'envoie plein de cœurs. Moi, je l'ai montré à tout le monde et tout.
C'est vrai. C'est vrai.
Alors que je voulais envoyer un smiley.
Il est extrêmement déçu, mais non, c'est pas grave.
Je voulais envoyer un smiley en colère, en fait.
Mais non, pas du tout. Mais ça me faisait rire le message de OK, je vais parler de BDSM. Cœur. J'ai paniqué.
Non,
moi, je suis content, je reçois des cœurs.
Ok.
Tani, une professeure.
Ben franchement, plein. Moi, j'aimais bien les profs de sport. Bon, après, ma mère est prof de sport, donc.
Ah ouais?
Mais. Waouh!
Le
mépris! Wow. C'est clair!
Qu'est-ce qu'il est méprisant, ce gars, mais c'est pas
une scission, j'ai l'impression.
Incroyable!
Wow. J'adorais faire le sport.
Mais oui, j'adorais le sport. J'ai fait beaucoup de sport. Bah, ma mère, voilà quoi. Et donc, non, je trouvais que les profs de sport, je faisais l'UNSS et tout. Et je trouvais que c'était d'autres rapports, en fait. Moins, justement, scolaires, formels. Et c'était vraiment des gens qui prenaient le temps de te parler.
Et
oui, moi, je pense que j'ai un rapport au corps. Enfin, bouger, pour moi, ça a été important. Tu vois, moi aussi, c'est vrai qu'à l'adolescence, j'étais un peu complexée sur mon physique. Mais au sport, j'oubliais tout, quoi.
Ah ouais, c'était l'inverse.
Bon, bah écoute, voilà, quoi.
Ouais, j'avoue, c'est très, très délicat, quand même, de toute façon, cette période-là de... 14-17 ans, c'est déjà une période de chambre. Hey, oh,
oh, wow. Wow,
j'ai fait un drop de mic.
Wow.
J'ai fait un drop de podcast.
Je crois que le mic t'a drop pour le coup.
Et donc, tu as une phrase particulière d'un
professeur qui t'avait marqué peut-être, qui t'a dit écoute Tani.
Écoute Tani, davantage est en toi.
Non, pas vraiment, mais c'est pas une phrase.
Elle a juste kiffé. Ça se voit, t'as juste kiffé que c'était pas vraiment des profs relous qui disaient fais des maths.
Ouais.
C'est tout ce que. Moi, j'adorais tous les profs de dessin, de sport.
De musique, sinon, franchement, la deuxième prof.
J'aimais bien le centre aéré et les colos. Ça, c'était mes profs préférés.
Ah ouais, on est l'inverse, je savais pas. Ouais. Moi, j'étais team nerd. Très scolaire.
Non mais moi aussi, non mais c'est juste que j'aime beaucoup le sport donc du coup moi pour moi c'était pas travailler les heures de sport, c'était genre mais la récré
quoi. T'as eu des bons profs de sport parce que moi j'ai eu des camarades de classe qui aimaient beaucoup le sport, du coup ils aimaient pas leur prof de sport. Tu vois, ça arrivait aussi.
Ouais,
le gars
ouais,
il se pose, il est en jogging, il se pose là-bas, il fume une clope, il dit sauter dans des cerceaux là.
Professeur de Spirou, c'est professeur de petit Spirou.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est Monsieur Mégo là.
Monsieur Mégo.
C'est vraiment Monsieur Mégo.
Ouais. Tu connais pas le petit Spirou?
Il était dégoûté quoi.
C'est exceptionnel.
Parce que du coup, les deux heures de sport, il était horrible. C'était là, monsieur, alors on fait quoi pour ce challenge? Moi ça m'arrangeait, parce que je voulais rien faire. Mais donc t'as eu en plus, t'as eu des bons profs de sport qui t'ont fait kiffer le sport en thème, ça.
Et bah comme je faisais effectivement les mercredis après-midi le VNSS, et pour moi c'était des trop bons souvenirs de avec les gens de ma classe, on va faire des compètes et on se dépasse et on est ensemble et tout.
Tu faisais quoi comme sport?
Dépression.
Tout le monde veut savoir.
Jour meilleur.
Non, mais je faisais le mercredi du cross, après. Je faisais du basket, du hand, j'ai tout fait quoi. Voilà, écoute. J'ai été éduquée par une mère qui voulait qu'on fasse du sport, c'était important.
Lou, veut juste expliquer que t'as tort d'aimer le sport.
Mais je ne suis pas d'accord, on va avoir un débat là-dessus.
Et je te coupe la parole, j'ai trop transitionné.
Non, mais pour moi, le sport, c'est important, puisque voilà quoi.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans la vie ou même dans votre carrière artistique? Ça peut être pas mal de.
Bienvenue dans Une question sans fin. Le nouveau concept, ça serait un bon concept.
Ça, c'est formidable.
Tu écris une question d'une heure et tu poses la question pendant une heure entière de l'émission.
En gastronomie, en.
Si tu trouves pas ce que tu veux, fais-le.
Si tu trouves pas ce que tu
veux. Non, mais.
Oh là là,
mais insupportable.
J'ai plus rien, le sport, ça passe pas.
Si tu trouves pas un gâteau que tu veux, fais le gâteau toi-même.
Ouais, par exemple. Okay. Non, mais voilà, si tu vois pas d'humoriste qui parle des sujets dont tu as envie d'entendre parler.
Qui t'a donné ce conseil? C'est toi?
C'est des choses que j'ai beaucoup entendues.
Tu vois, elle est prête pour le stand-up. Elle cite pas les gens à qui volent les phrases.
Non, mais par exemple, cette semaine, il y a un truc à Pompidou sur la réalisatrice, une réalisatrice martiniquaise qui s'appelle Eugène Palsy et qui est la deuxième femme à avoir eu un Oscar d'ailleurs d'honneur et qui ne se voyait pas dans les films et elle a décidé de devenir réalisatrice à 17 ans, elle est partie de Martinique, elle est montée à Paris, elle a fait son premier film à 26 ans et bref, je trouve qu'il y a beaucoup ce... Moi oui, de femmes noires qui ont eu ce discours-là et de si tu te sens pas représenté, si tu trouves pas ce que t'aimerais voir, fais-le quoi, écris-le, écris ce spectacle.
Ah c'est beau,
voilà.
J'aime bien.
Ça je l'ai bien en tête.
Lou il est vite passé de. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique.
Moi je sais pas.
Je t'ai pas posé la question.
Oui,
ne réagis pas trop vite peut-être. Peut-être le conseil, réagis pas trop vite.
Toi aussi d'ailleurs, tu voyais pas du Maurice trans. T'as...
Oui, mais moi je suis pas montée sur scène en me disant je parlais d'être trans. Je suis montée sur scène et je me suis rendu compte que j'étais trans.
C'est vrai que est-ce que ça s'est fait sur scène?
Ouais, parce qu'en
fait.
Première
fois que tu disais le mot trans. Ouais. Sur scène.
En gros, au début, je disais pas trans pendant un certain temps.
Tu disais que t'étais lesbienne. Après,
j'ai dit au début, je suis arrivée, j'étais hétéro, et j'ai dit ouais, les gens ils pensent que je suis lesbienne, pas du tout. Après, je suis sortie avec une meuf. Du coup, j'ai réécrit mes sketchs. J'ai dit bon, en fait, je suis lesbienne. Je suis sortie avec un mec. J'ai dit bon, en fait, je sais pas. Et après, j'ai dit, je me rendais compte que j'étais pas une meuf. Du coup, j'ai dit non binaire. Et en fait, j'ai dit trans. Enfin bon, bref. Mais c'est parce que quand t'es sur scène, j'étais confrontée à comment les gens me percevaient. Parce que tu sais, c'est un peu le premier exercice de quand tu arrives sur scène, tu te dis ah, vous pensez que je ressemble à ça, mais non. Ou alors, vous êtes en train de vous dire que. Enfin, c'est un peu le premier truc que tu dis quand tu commences.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, je me suis rendu compte que c'était hyper violent pour moi d'être perçue comme une meuf. Je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est violent quand on perçoit les meufs de manière générale? Et en fait, pas du tout. C'était, ça m'a renvoyé ça, je me suis dit, bah, c'est pas moi, en fait. Et j'ai dit trans il n'y a pas longtemps. Je pense il y a un an seulement.
Ah ouais?
Ouais.
Wow,
je le disais dans le privé, peut-être, mais... Mmh.
C'était pas le cas à l'époque où on était au...
Non, moi, je disais pas...
Comedy Club Tour.
Ouais. Mmh.
Après, moi, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était hétéro et tout.
Je suis arrivée, j'avais un millet.
Il sentait pas légitime.
Un costard. Je dis, je peux venir quand même, je suis hétéro. Et Tania a vraiment fait... Oui, tu peux venir, je pense.
Toi, ça va. Toi, c'est bon, là, je crois.
Ouais.
Tu sais, ça reste flou. Il n'y a pas des règles très strictes. Toi, ça rentre. J'ai hésité. C'est la preuve que oui.
Et un conseil qu'on t'a donné
C'est un conseil qu'on me donne encore, que j'arrive pas trop à appliquer. C'est je peux pas plaire à tout le monde. Ça, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Le début de mon spectacle, je l'écrivais pour les autres, pas pour moi. Et je pense que ça fait partie du truc. Il faut écrire pour le public aussi. Mais je veux vraiment plaire à tout le monde, même dans la vie, je veux plaire à tout le monde. Du coup, des fois, je m'adapte et les gens se disent « Mais c'est bizarre, t'as dit ça à quelqu'un d'autre et après tu dis ça à moi. » Ça me stresse de ouf. C'est très difficile pour moi quand quelqu'un ne m'apprécie pas. Même si je ne le connais pas, tu vois, ou s'il ne m'apprécie pas parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses importantes et tout, tu vois. Du coup, mais je n'arrive pas encore à l'appliquer totalement.
Il y a tu penses que ça vient d'où ? La validation.
La psychologie.
Tu vois, c'est pas ça, c'est que moi j'ai Jour Meilleur dans la tête depuis tout à l'heure. Et je suis parti dans un truc un peu
C'est pour ça qu'il est parti sur cancer. Il fait non, mais ça doit être parce que je suis cancer. Comme ça, t'as pas besoin d'aller chercher.
Ouais, c'est vrai. Oh.
Non, c'est parce que je suis cancer.
So cancer.
Non, mais c'est un truc d'enfant très classique de parents divorcés, je pense. Un truc vraiment très. Non, je vais essayer d'arranger les choses, vous inquiétez pas. J'avais des magouilles, j'écrivais des fausses lettres d'amour. Bon, ça se voyait que c'était moi pour que mes parents se mettent ensemble. Enfin, vraiment un truc classique.
C'est trop mignon.
Oh, wow.
C'est super mignon. C'est triste
ouais.
Et mignon.
Ouais.
C'est triste et mignon.
C'est trignon.
C'est trop tignon.
C'est trop tignon.
C'est trop tignon.
Allez.
Oh, trop, c'est trop triste et mignon. C'est trop tignon.
Et un autre t-shirt.
Non, je sais pas, t'as pas ça, toi?
De vouloir plaire à tout le monde?
Non, mais si, à balle, il a ça, mais justement, si. Regarde, comme c'est un vieux, il peut t'expliquer un peu.
Mais du coup, t'as fait, parce que moi, ça m'intéresse.
Tout humoriste, non?
Non, il y a des gens qui me disent vachement, moi, je dis ce que je veux, l'important, c'est ce que je veux.
Ouais, mais dis ça à toi, c'est pour te plaire.
Ouais.
Ils disent ça, ils disent pas la même chose aux autres. C'est ça, parce que vous vous rencontrez ensemble et vous vous dites que ce que vous voulez entendre. Il est formidable, parce que vous voulez plaire à l'autre.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Il y en a plein qui disent « Moi, je dis tout ce que je veux. » Après, ils voient une critique négative et ils pleurent.
Oui, c'est vrai.
Oui, il y a une faille. D'ailleurs, ce métier, je trouve que c'est un métier qui remplit bien la faille, mais c'est un des métiers les plus difficiles pour remplir la faille. C'est vraiment ultra difficile de dire « Je vais mettre 100, 200, 300, 4000 personnes, 5000, 10 000, 1 million de personnes d'accord devant un propos ou un truc. » Et ces gens-là vont me donner... c'est pas de l'amour déjà, c'est de l'intérêt, donc c'est intéressant et c'est la confusion entre l'intérêt et l'amour qui, à mon avis, il faut faire le travail de dissociation, ils ont aimé mon travail, c'est pas moi qu'ils aiment, et c'est hyper important de le faire, je pense, déjà pour garder les pieds sur terre, c'est important, parce que sinon tu décolles, tu dis c'est bon, tout le monde m'adore, tout le monde m'aime, c'est vraiment moi. Tu dis non, ton travail, ce que tu... Pardon ?
Je me vois trop être comme ça.
De quoi donc, de décoller ?
Tout le monde m'adore !
Bah, on a tous...
Non, on sait jamais.
On est tous, à un moment donné, sujets à décoller un peu les pieds pour dire d'y croire, tu vois, et de se laisser un peu facile d'y croire. Mmh. Donc, faut faire le travail inverse, de dire non, attends, redescends, tranquille. Mmh. C'est cool déjà, c'est déjà cool de pouvoir... se payer un sandwich, se payer un repas, se payer un resto, parfois des vacances grâce à ton métier quand même, c'est quand même cool. Donc il faut redescendre, mais je pense qu'il faut pas confondre l'intérêt et l'amour.
C'est un code chez les riches. Bon, sandwich, c'est une Jaguar.
D'accord.
Dîner, c'est une Rolex, parce qu'en fait ils ont un vocabulaire spécial. C'est quand même moi, quelque j'en dis. De bref, quand même ce plaisir de pouvoir me payer un sandwich, quoi. Je veux dire.
J'ai toujours plaisir. Et c'est vrai que j'ai une situation qui s'est bien améliorée en 10 ans. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai toujours un kiff à me dire, waouh, je me suis payé un truc avec mes blagues, quoi.
Et c'est mes blagues. Tu donnes des bouts de sandwich.
Sauf que c'est avec mes blagues.
Je donne des bouts de sandwich, c'est vrai.
Ah ouais.
C'est vrai qu'on a pris le train.
Pour les autres qui ne peuvent pas encore se payer
un sandwich. Non, mais c'est ça.
Non, c'est hyper gentil, pardon.
C'est quoi cette anecdote?
Non, mais j'y pense encore, j'avais hyper faim.
Je comprends pas, t'es monté dans sa Jaguar ou là, vous parlez d'un vrai sandwich? Non, on parlait d'un vrai sandwich, là.
Ouais.
Parce que c'est...
Non, pardon, c'était... Merci.
Je demandais pas de merci, en plus, j'ai rien dit.
Merci
tout.
Beaucoup, Kian. Je te remercie. Merci
non, mais ça, c'est un prince, c'est ce qui est à moi et à nous. Il n'y a pas de. Oui.
Ah,
c'est nous. On en est un très bon exemple. Hein. De toute façon, j'ai pas vraiment de.
Mais tu m'as dit, on n'en parle. Ah, on parle pas du tout des trucs échangistes et tout.
Non, je parle pas.
Ok.
Je propose qu'on fasse une lecture de notes, d'accord? On fouille dans nos téléphones portables les dernières notes qu'on a écrites et on se les partage. Est-ce que ça vous dit?
Ouais.
Oh, il y a un ouais. Jour meilleur.
Non, mais Lou.
Allez, Lou, ça va aller.
Oh là 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 là.
Alors moi, j'ai mes notes de.
Attends, les dernières qu'on a écrites?
Ouais. C'est un truc que je vous donne. Moi, maintenant, je fais des notes qui ont des dates d'années. Comme ça, je sais à peu près.
Moi, attends, de quoi?
Bah, j'ai des notes 2023, 2022, 2021, 2020. Comme ça, je peux repartir dans les trucs.
J'ai tellement jamais rien, vraiment.
Tu notes plus rien, ton avou?
Non, j'ai des vieilles blagues de l'époque de Bloqué.
Vas-y.
Cette fille, c'est comme un rêve. Je sais que je l'aurais oublié demain matin. C'est une bonne phase.
C'est une bonne phase, c'est beau.
Tu crois que les Daft Punk, ils échangent leur casque pour baiser la meuf de l'autre?
Mais attends.
Je crois qu'ils baisent avec leur casque.
Ça, c'est vraiment ta dernière note? Genre la plus
récente? Non, c'est genre. Je comprends pas, je comprends rien, mais en fait, ça fait 1500 ans que je note rien. Je dois avoir des trucs quelque part. Voilà. Mais je suis content pour une fois, parce que ça fait au moins 12 émissions où je dis j'ai rien. Là, j'ai enfin dit
deux
blagues.
C'est vrai.
Après aussi, c'est parce que des fois, je vois des blagues. Et
mais
je
toi,
me dis,
t'écris
mais
vraiment les trucs. Moi, je note des idées. J'ai... Et alors, en fait, ça... des fois, ça n'a aucun sens. Là, j'ai écrit jupe égale costume de canard.
Ah, mais t'arrives à te rappeler pourquoi?
Si, je vois le lien que j'ai fait. Mais bon, c'était, voilà, 2h01 du matin. Donc,
mais on veut savoir, c'est quoi jupe égale?
Je pense que c'était parce que j'essayais de poursuivre un truc que je fais sur le fait que je porte plus de jupe et que je sais pas, quand je porte une jupe j'ai l'impression que d'être déguisée, tu vois, et bref, je me suis dit
en Donald dans Disneyland, genre en canard.
Non, mais je me disais, ouais, est-ce que les robes ou les jupes, pour moi, ouais, c'est comme si, ouais, on me disait porte ce costume de canard parce que t'es une fille et qu'habituellement les gens portent ça. Mais bon, bref,
j'adore ta tête.
C'est peut-être un peu mielleux, mais c'est en deux faces, c'est en deux temps.
Mais on adore.
Penser à toi, c'est comme lever les yeux face aux étoiles.
Ouais.
C'est regarder le passé.
Ah, ça ressemble à cette fille comme un rêve, c'est marrant.
Oh, ouais. Wow.
J'ai pas compris.
Alors, je la redise ou penser à toi, c'est comme lever les yeux face aux étoiles. C'est regarder le passé. Parce qu'il faut en fait faire un peu de faire de cosmologie. C'est pour ça, parce qu'en fait, les étoiles, quand tu les vois, la lumière a mis tellement de temps à arriver que tu vois une ancienne version d'elle. Tu vois forcément regarder le soleil, c'est regarder le passé de deux jours, quoi, déjà.
Enfin, c'est
4 heures. On me corrigera dans les commentaires.
8 minutes le soleil.
C'est 8 minutes le soleil. Voilà.
Mais regarder le soleil, il ne faut pas le faire, de toute façon.
Non, mais oui, là, il ne faut pas regarder le soleil. En tout cas, tu peux bronzer devant le soleil, mais tu bronzes devant un truc à 8 minutes. C'est ça que tu veux savoir.
Oui, c'est ça.
Ton bronzage à
8 minutes.
À 8 minutes de retard.
À 8 minutes de retard sur le soleil.
Ah, vous avez créé des trucs beaux.
Mais après, ce n'est pas forcément beau. Ça peut être des blagues.
Oui, mais c'est un.
Moi, j'ai dit, ils mettent leur casque, les Daft Punk, pour baiser. Tu vois, c'est pas ouf.
Ouais. idée de sketch marrant. Vas-y.
J'essaie d'écrire un nouveau truc là. J'ai noté. J'ai les réflexes de ma vie de meuf et le passing d'un mec. Genre parce que c'est ce que je racontais à Tania. J'ai pris le bus de nuit et en fait il y a une meuf qui était en train de se faire voler son sac et qui hurlait et qui m'a vu et qui a dit jeune homme venez vous êtes fort, enfin vous êtes un garçon vous allez pouvoir vous battre et je ne savais pas, tout d'un coup j'étais un garçon parce que j'avais une mini capuche donc je ressemblais à un mec et je ne savais pas quoi faire, j'ai dit jusqu'où non je suis une femme maintenant, enfin j'ai complètement
t'as tout renié.
Tout renié de te transitionner comme ça. Et du coup, j'ai demandé à un autre mec qui était là, je dis, je suis pas vraiment un mec, enfin, c'est compliqué, est-ce que vous pouvez y aller?
Ah, t'as vraiment dit ça?
Oui, j'ai paniqué.
Regardez mon flyer.
J'aurais dû me dire, genre, je ne sais pas me battre, mais c'était trop bizarre pour moi que tout d'un coup, je commence à être considérée comme un mec. Et du coup, dans la rue, c'est différent. Genre, du coup, on m'appelle pour protéger les gens et je n'ai aucune capacité à faire ça. Et du coup, j'ai noté, mais même, j'ai pas les codes sociaux de mec, en fait. Genre, je commence à ressembler à un mec et je n'ai pas les codes sociaux de apparemment, on fait pas trop la bise ou pas tout le temps.
Mais tu vas rentrer dans le boys club, déjà, tu vas voir. Tu vas voir le délire.
Ah ouais, tu penses?
Ouais, c'est Océan
qui raconte
Océan
ça.
Océan disait ça. Ouais. Océan expliquait que il s'est rendu compte que en vérité c'est ouais c'est important la sororité en face parce que lui il a vu la fraternité.
Moi je vois pas.
Mais
ça,
dans sa vie, l'instant, il y a ça, je crois,
dès aussi, l'instant où il est vraiment été perçu comme un homme par les mecs cis. Mmh. Ah là ça se tapait dans le dos et ça tu vois.
Du coup je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de ressembler à un mec pour de vrai.
Bah, c'est ça le plus relou je trouve. Ouais. En tant que mec cis vraiment il y a plein de trucs je suis pas d'accord de ouf.
Bah ouais c'est ça.
Et du coup, quand tu transitionnes, je pense que c'est bien.
C'est
si
trop
tu
bizarre.
Fais un peu de cherry picking, hein, prends ce que tu veux.
Oui, oui, c'est vrai. Mais on peut pas trop. Mais c'est juste dans l'espace public. Bon, c'est très. Des fois, c'est. Je suis une meuf. Des fois, je suis un mec. C'est pas moi qui choisis. C'est comme ça. Ça dépend.
Ouais, mais au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir choisir.
Ouais, c'est ça. C'est... Et ça me fait plus peur. Prévu.
Tu vas devoir couper la parole au max, mansplainer des trucs.
Mais même, je sais pas. Mais du coup, j'ai pensé à une blague, mais peut-être c'est pas. Mais je me suis imaginé, si je suis dans un groupe de mecs cis, et je sais pas pourquoi, peut-être c'est à défaut, mais j'imagine tout le temps qu'il y a toujours cette obsession sur la taille du pénis, par exemple, et qu'ils savent pas que je suis trans. Et je dis des trucs genre, moi, c'est 3 cm, hein, c'est un truc, et je suis trop fière de moi. Non, c'est... Enfin, tu vois, je sais pas comment essayer de m'adapter au truc, genre, je panique totalement. Et du coup, je les observe, et je remarque qu'en soirée, ils font beaucoup de bruit. Non ?
Okay. Les hommes ?
Oui, comme des ados ensemble qui font une soirée et c'est tout le temps genre, oh, le verre il est tombé, waouh, comme ça, après ils sont, waouh.
Ouais, ils font du bruit pour attirer l'attention,
oui,
justement.
C'est ça. C'est... Et du coup, peut-être je peux m'accrucer et faire, waouh. Bon, voilà, c'est des questions que je me pose.
Ouais, où ils surrigolent aux blagues de tes potes pour dire, ouais, hey, il est trop marrant, lui, ici, il y a trop d'ambiance de ouf, on est des ouf ici, tu vois.
Non, mais tu vois, regarde Paul Taylor ou Sébastien Marx, enfin. Ouais, c'est des bons exemples qui arrivent dans un pays et qui du coup remarquent des trucs qu'on remarque pas nous-mêmes.
Oui, c'est vrai.
Tu vas pouvoir faire la même chose avec le pays des hommes.
Ouais, mais j'ai peur. Par exemple, je me dis, j'aimerais trop aller dans les vestiaires des hommes quand je fais du sport et j'ose pas encore. Et je me demande à quoi ça ressemble. Tout d'un coup, j'ai accès à un monde. Mais bon, voilà.
Bah, comment c'est t'as des gars timides et des gars pas timides du tout. Et vraiment,
oui,
t'as l'extrême.
Plus, plein de...
T'as l'extrême, t'as le mec qui est en bite et le mec qui est en chaussette.
T'as des vestiaires
qui...
de sport.
Bon, les meufs aussi après.
Hein, vous avez pas les vestiaires de sport.
Elle a du sport.
Ouais, c'est toujours un peu. Je sais pas. Moi, c'est.
Mais de toute façon, tu fais pas de la corde, donc en fait.
Oui, c'est vrai d'ailleurs, à la base.
Justement, il veut en faire pour pouvoir y aller.
Ouais, d'accord, ok.
Non, mais oui, c'est la vraie question.
J'avais une idée de sketch marrant. C'était.
Allez, on l'écrit.
Non, mais c'est un œnologue qui prend une bouteille, il prend un verre de vin. Il fait. Alors, il y a les nuances de. Et l'autre, alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme. Qu'est-ce que c'est? Mm-hmm. Il y a des nuances de prune, de cassis, de mûre. Et le gars en face, il fait perdu, c'était du raisin.
Voilà. C'est une blague de tonton. Mais dans ce sens-là, elle est plus marrante. Joke, ouais. Parce que moi, c'est une blague de tonton que je fais tout le temps quand on sert du vin.
Ouais.
Moi, je fais. C'est du raisin. C'est du raisin.
C'est
du raisin fermenté, non? Ouais.
Nul! Nul l'œnologue! Il a même pas vu le raisin!
Moi, ma question, c'est si tu dis œnologue sur scène, est-ce qu'on comprend? Ou est-ce qu'il n'y a que moi?
Non, mais après, tu peux dire œnologue, le mec qui connaît les vins. Tu dis juste le mec qui connaît les vins et ça, t'as raccordé tout le monde.
C'est vrai.
Le sommelier.
Comment on fait pour aller bien? Et c'est quoi aller bien?
Allô, alors?
Alors, ben on écoute.
On fait du sport.
Jour meilleur. Jour meilleur.
Chacun son.
Mes salles sont pleines. L'ai-je vraiment mérité? Jour meilleur.
Ah là là, je te jure.
Trop marrant.
En vrai, c'est insupportable. Pourquoi je me plains? Non, mais je suis très content aussi. Hein.
Moi, je vois des potes.
Deux questions. C'est quoi
déjà, comment on fait pour aller bien?
Comment on fait pour aller bien? Ben, on fait attention à soi.
Ouais, c'est quoi faire attention à soi?
Moi, en tout cas, je sais que dans ce métier, j'essaie de me forcer à faire des pauses et à justement, parce que, enfin, aujourd'hui, on peut jouer tous les soirs, quoi. Si, enfin, en tout cas, t'as des propositions, des comedy clubs partout. Et donc, moi, je sais que je me force à me dire, OK, ce jour-là, je mets rien, je me bloque le truc pour voir des potes, avoir le temps de passer des moments en famille, faire du sport.
Donc, c'est les autres. Allez bien, c'est les autres.
Pour moi, c'est, ouais, ressourcer auprès des autres. Et après, quand vraiment ça va pas bien, le psy, quoi. Important. Voilà.
Lou, couteau Relsad.
Mais c'est vrai, s'autoriser à être triste et pas bien, c'est
oui,
ça,
c'est
aller
vrai.
Bien, tu vois.
Ouais.
Genre, et ça, j'ai du mal.
C'est plutôt sain.
Ouais, mais j'ai du mal à faire ça. J'ai l'impression que si j'ouvre les vannes de ce qui va pas, tu vois, ça va me prendre toute la journée et j'ai pas le temps. Mmh. Mais tu vois.
Okay. Peut-être c'est parce dur. Que tu ouvres jamais, justement. Alors oui. que si tu ouvrais tout le temps un petit peu.
Bah ouais, mais c'est dur de.
La première fois, ça va durer 3 jours, tu vois, c'est relou. Mais du coup, après, si tu rouvres. Ouais, à chaque fois que t'as besoin d'ouvrir.
Et en plus, il se passe un truc, je prends la testostérone et je sais pas vous.
Nous, j'ai fait quelques pompes.
Nous, on s'est habitué, ça fait longtemps.
Oui, c'est ça, le corps est habitué, mais en fait, ça a complètement changé mon rapport aux émotions.
Ouais.
Avant, c'était très dans mon corps, ça me prenait, je pouvais pas m'empêcher de pleurer. Et maintenant que je prends la testostérone, c'est plus là. C'est très. Et surtout, non, j'ai du mal à pleurer. C'est très difficile de pleurer.
Je sens que ça bloque.
Ah, mais tu voulais écrire là-dessus un peu. Ah,
c'est hyper intéressant, ça.
Genre, ça bloque. Je sens que j'ai envie de pleurer, mais ça lâche pas facilement.
C'est un super point de départ de stand-up de dire.
Ouais, mais j'ose pas le dire. Parce
j'ai compris un truc pas mal. J'ai compris pas mal de choses. C'est génial.
C'est Paul Taylor, mais qui arrive au pays
ouais,
des
c'est
hommes.
C'est clair. J'adore. J'adore. C'est hyper intéressant.
Ah ouais, j'ai pas.
Vous avez des barrages au niveau des paupières.
C'est une barrage technique, quoi.
Tu sens la tristesse et. Et c'est, il faut vraiment.
T'es plus en colère ou pas?
Ouais, ça c'est une vraie question.
Tendu. Bon, c'est complètement.
Waouh, cette pause.
Je suis très en colère là, cette question. Mais...
Enfin, plus agressif, pas en colère, parce qu'en colère, il y a des colères saines, mais.
Non, j'ai juste plus d'énergie, donc je suis plus tendue, donc des fois j'ai plus d'insomnie parce que du coup il faut que je me dépense beaucoup plus, mais je suis pas. Mais c'est vrai que je me réapproprie plus ma colère du fait d'être moins triste. Je sais pas, c'est compliqué. J'ai pas envie qu'on pense que les mecs trans deviennent agressifs sous prétexte qu'on prend la testo et que quand on devient un mec, on est forcément agressif. Parce que ça, c'est faux. Il y a un rapport aux émotions
oui, mais
qui est
en
différent,
fait, c'est
mais après, on en fait ce qu'on veut.
Il y a deux étapes.
Ouais.
C'est que quand tu dis ça, ça veut dire attention les gars, faut pas être agressif.
Oui.
Parce que là, tu vois ce que je veux dire. Il y a deux camps, enfin, il y a deux causes différentes. C'est, ouais. Est-ce qu'on dit aux hommes, non, vous n'êtes pas agressif, vous inquiétez pas, tout va bien?
Ah oui, je vois.
Ou est-ce qu'on dit, non, les mecs trans ne deviennent pas agressifs s'ils prennent des...
Mais j'ai hyper peur de ça, parce que...
Est-ce qu'on règle?
Ouais. J'ai hyper peur qu'on pense
parce
que
qu'en
ça
fait, ça se gère.
Moi,
j'essaye de ne pas être agressif, parce que je gère mon agressivité, parce qu'il y a un truc qui fait que quand t'es triste, tu vas plus facilement être agressif que pleurer.
Ah ouais?
Ouais. Ah ouais, être tendu.
Je ne sais pas à quel point c'est purement les hormones. Mais en tout cas, culturel. Je ne sais pas si c'est culturel,
ouais,
hormonal ou un mélange des deux.
Peut-être. Hein.
Mais un mec qui s'énerve, c'est souvent un mec triste.
Ah ouais?
Qu'on n'a pas autorisé à pleurer. En
ouais. Bah, c'est un peu ça, mais c'est plus de la frustration, de la tension de ne pas pouvoir lâcher, tu vois.
Ouais.
Mais le truc, c'est que la colère, en tout cas, moi, en grandissant, en étant élevée en tant que meuf, on ne l'a tellement pas autorisée. C'est pas beau, on m'a dit, c'est pas beau la colère, c'est masculin
ouais, c'est
la
vrai.
Colère. Que ouais. Du coup, j'ai tellement l'impression de me la réapproprier que je l'accueille avec beaucoup de joie. C'est très étrange. Je suis là, je suis encore... C'est trop bien, c'était trop bien.
Mais ceci dit, c'est vrai parce que moi, l'étape colère, elle dure pas souvent très longtemps, quoi. Ça va direct colère, tristesse.
Mais j'aimerais bien lâcher dans la tristesse.
Il y a peut-être un léger décalage, c'est que. Quand je fais du sport ou de la musculation, des choses comme ça, ma testostérone, je sens qu'elle augmente parce que je suis un peu plus bouillant, quoi. Je suis un peu plus tonique. Mais en même temps, je suis plus épuisé. Donc, si tu veux, j'ai une sorte de, c'est une sorte d'équilibrage de, je sens que je suis un peu plus nerveux. Je sens aussi ma libido exploser quand j'ai fait du sport. Je sens plein de choses qui sont totalement différentes. Donc je me dis, tu vois, il y a aussi le fait de se dépenser, t'obtiens cette testo en te dépensant. Du coup, ça maintient un truc, je sais pas, il y a peut-être un équilibre à trouver, c'est ça aussi. Après, je suis personne pour
non,
dire
c'est
comme
ouf,
ça qu'il faut faire, mais juste, je sais que par rapport à moi, ce que je ressens, c'est que je sens que je suis plus nerveux quand j'ai fait du sport, de la muscu lourde, j'ai porté lourd, tu vois.
C'est vrai que toi, mais en même temps, c'est vraiment, ça me fascine.
C'est fascinant.
Parce que lui... Ouais. Tu vois, les gens, il y a des gens, ils fument un linge, ils sont tout pareils. Les gens, moi, par exemple, je prends une latte, mais vraiment, je suis éclaté. Je suis genre, je suis dans l'espace. Et lui, les drogues de son corps, ça lui fait ça. C'est-à-dire que lui,
quand
un peu d'endorphine, un peu de, je sais plus ce que c'est, l'ocytocine ou je sais pas quoi, qui met un peu envie de pioncer. il s'endort. En fait, il est.
C'est un enfant.
Il est connecté à toutes les drogues de ta tête. D'où le petit chimiste dans le spectacle.
Je pensais ça, mais même la personne avec qui je fais du sport, la personne me voit, elle me dit, je suis là, genre, j'ai travaillé un exercice qui enclenche de l'endorphine, et je suis comme ça. Je suis désolé, je suis défoncé là. Faut que je me pose un peu là. Faut que je m'assoie. Elle m'a dit j'ai jamais vu ça.
Est-ce que c'est parce que tu te drogues pas et du coup ça fait ça?
Peut-être que j'ai peut-être des récepteurs qui sont assez, ils sont assez réceptifs pour le coup. Du coup, c'est peut-être ma manière à moi de gérer justement les molécules. Peut-être elle est différente, mais en tout cas je sais que. Ouais, je suis explosif quand je sors de sport. Je suis là, j'ai une grosse énergie. Après, il faut que je fasse une sieste. Après, tu m'as vu au téléphone il n'y a pas longtemps. J'avais 1500 idées en 4 minutes, quoi.
Moi, ça me fascine parce que je suis le contraire. Et donc, du coup, vraiment, tout ce dont il me parle, ça ne marche jamais. Tu sais. Il dit, regarde, va dans ce spa. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et je suis là, il fait chaud. Après, il fait froid. C'est tout ce qui m'arrive dans la vie. Lui est là. Oh yeah! vraiment, il est là. Quelqu'un fait un massage. Il est là. Oh mon Dieu! Et vraiment, je suis là. Waouh, la chance! Quelle sensibilité!
C'est trop bien.
J'ai envie de te ken juste pour ça un peu. Genre, pour avoir ce sentiment d'accomplissement, d'avoir fait quelque chose de ouf à ce gars. Quoi.
Est-ce que vous avez passé un bon moment?
Oui.
Grave.
C'est l'heure des recommandations culturelles. Est-ce que vous avez. Lou? T'as pas une chanson à recommander? Un artiste de rap qui a tout pété en deux albums ces quelques années, ces quelques dernières années? Une recommandation culturelle, ça peut être par exemple, Noam, si tu t'en rends culturel, tu vois.
Noam Sinso va sortir son spectacle.
Ah oui,
superstar, incroyable. Ça va être fou. Ça va être dingue.
Ouais, et pour. Alors, c'est très particulier. Mais puisqu'on est dans la culture queer, hier, je suis allée voir un cabaret qui s'appelle le Cabaret Saccage.
Cabaret Saccage.
C'est ça. Et en fait, c'est des artistes de Berlin qui vont venir des fois à Paris. Et c'est fucked up. C'est trop bien. Il y a vraiment une personne qui se met une chaîne en fer dans le nez avec un truc hyper coupant au bout et qui tourne autour comme ça.
Waouh.
Enfin, c'est vraiment c'est fucked toute up. Cette culture queer, punk. C'est magnifique à voir. C'est très déstabilisant et c'est trop bien. Donc ouais, je conseillerais ça.
Ouais.
Et puis Maodrama aussi.
Maodrama, of course. Ma Marie.
Ouais.
Marie, on vous a vu dans 69.
Dans 69.
Oui, on a le droit tout à fait.
Bien sûr, avec plaisir. On pourra en parler. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je pense que c'est à ce moment-là que l'émission sort.
Ah bah trop bien.
Ça a été une bonne expérience.
Carrément.
C'était
trop bien.
Ouais. C'était un shot d'adrénaline en une minute et après. Et je pensais pas avoir des rires. En une minute.
Bah, tu vois.
Aussi bien que sur un 5 minutes, tu vois ce que
c'est
je veux
dire. C'est un bon exercice, en tout cas,
d'efficacité. Ouais, c'était trop bien.
Bon, on était trop contents de vous avoir, en tout cas, sur 69. Navo, t'as quelque chose à recommander?
Ouais. Dans l'émission avec... c'était avec Alison Wheeler et Melra Bedia, j'ai recommandé quelqu'un, donc je pense que les gens avaient vu la recommandation, et après, il y a plein de messages de gens, et d'ailleurs, lui-même a fait un tweet en disant « Bah, super !» Parce qu'en gros, j'avais pas fait gaffe. Dans l'émission, je dis, alors je conseille The Great Review. En fait, c'est un gars, et après, il y a quelqu'un qui fait Great Review. Il y a quelqu'un qui fait Great Review. Après, je fais Great Review. Après, on fait que ça. Et après, on est passé à autre chose. C'est là. Ils ont parlé de moi, mais.
Ils ont pas dit ce que je
faisais. Super. Après, ils ont juste fait des exercices vocaux. Donc, je reconseille à nouveau The Great Review, qui fait des Great Reviews. Ça donne envie de faire des
reviews. Qu'est-ce qu'une reviews?
Sur des sujets souvent liés aux jeux vidéo, mais pas que. Et par exemple, il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Outer Wilds, qui pour moi est un meilleur jeu du monde, auquel tout le monde n'a pas envie de jouer. Et ben, le mec a fait 2 heures pour expliquer tout Outer Wilds. C'est-à-dire que si t'as pas envie d'y jouer, mais que t'as envie de comprendre pourquoi c'est le meilleur jeu, il explique
pendant
tout.
Pendant 2 heures, quoi.
Il explique toute son aventure que lui a fait dans le jeu. Tu vois. Et pareil, il parle d'une équipe, là récemment, donc on est un peu tard maintenant, il parlait d'une équipe de LoL, de League of Legends. Et en fait, j'étais...
Non, pas LOL qui crie sort.
Parce que maintenant, il a fait LOL qui crie sort.
Ah, pardon, c'est vrai, c'est vrai. Que...
Eh oui, c'est la nouvelle version, c'est la version Halloween de LOL
c'est
qui crie sort.
Mais non, c'est vrai
ouais, c'est ça.
Ah, je sais pas.
Eh, je parlais de The Great Review. Il est là, il fait non,
parlez de moi, s'il vous plaît.
Et j'étais avec ma meuf qui, du coup, connaît rien à LOL. D'ailleurs, moi-même, je connais pas grand-chose à League of Legends. Et en fait, c'était trop bien. c'est comme tu regardes un bon docu sur, sur Saint-Étienne.
Un vrai mec passionné.
Tu connais rien au foot, mais t'es à fond dans Saint-Étienne. Après, tu fais waouh.
Ok.
Donc voilà. Maintenant, vous dites tout waouh, ça a l'air, vous dites tous ah, ça a l'air vraiment super.
Ça a l'air incroyable.
Ça a l'air
incroyable. Wow,
c'est sur YouTube. Vraiment, allez le voir.
C'est sur YouTube. C'est une chaîne YouTube.
C'est une chaîne YouTube.
D'accord. Ben, on ira le voir avec grand plaisir.
Voilà.
Toi, c'est quoi ta recommandation?
Une artiste qu'on peut retrouver sur Instagram qui s'appelle Tessa B, qui a une voix.
Ok, super. Alors. Comme ça, tu seras obligé de la refaire.
D'accord. Mais je comprends la frustration. Ça doit être dur.
Mais aussi, qui était à 60.
Tessa B.
Non, 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 elle est. Non, elle était pas là, dans 69.
Non.
T'as trop dit non, on dirait qu'elle est nulle. Non, surtout pas.
Non, je crois pas qu'elle était dans 69. C'est une voix exceptionnelle et je crois qu'elle est aussi actrice. Mmh. Donc on peut la voir dans 2-3 trucs. Et c'est franchement, je pense que c'est un profil à suivre. Parce que vraiment, elle a une voix exceptionnelle et vraiment toutes ses covers sur Instagram, c'est juste à tomber. Quoi.
Trop bien.
Trop cool.
On a été trop.
Par rapport à Nesta, Fit Oxmo Puccino.
Vous allez voir ça.
Tu vas la mettre
bien, on va la demander à nos amis de chez Planète Rap qui nous donnent des vidéos généralement, qui sont très gentils avec nous. Merci encore d'être venu. Merci beaucoup.
Merci à
beaucoup,
toi.
Merci
à vous.
Merci
Navo.
Merci.
Merci Lou.
Je tiens à notifier que Tania a fini toutes les.
Et elle a bien raison.
Oui, t'as raison.
C'est plein d'antioxydants. Écoutez, il n'y a pas de conclusion.
C'est pas possible, quoi.
C'est la récré.
Ok, de l'antioxydant. J'en prends alors.
Bisous. Bisous, bisous. Faites ce que vous voulez dans votre vie. Salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.